I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans
Ça va ou quoi ?
Underscore, votre émission préférée. Je suis extrêmement content de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité, mais
non, en vrai, tout, trop pas.
Toujours
hier, mais
toujours une semaine.
Refuse de partir.
C'est ouais, voilà quoi. C'est toutes les semaines à 20h le mercredi. Vous le savez maintenant. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir mon invité JB Kempf, que vous connaissez sûrement déjà.
Salut.
Et le bon hardisk, voilà le pilier de bar,
le classico,
le frérot.
On est là. Hein.
Et puis voilà, JB, pour te présenter rapidement, pour ceux qui te connaissent peut-être pas, tu es le président de l'association Vidéolan, qui, tu me dis si je me trompe pas, mais qui édite VLC, c'est ça,
jusque-là ça va.
Jusqu'à peu, tu étais directeur technique de la startup Shadow.
Blade.
Oui, pardon, Blade. Mais enfin, les gens connaissent Shadow. Bon, ça va, concentrez-vous.
La startup, c'est Blade.
C'est
le
vrai.
Produit, c'est Shadow, mais...
C'est vrai. Soyons précis.
Pas renseigné, mais
et tu es chevalier. Je voulais le dire quand même. Tu es chevalier. J'aime bien. Il n'a entendu que le début. Tu es chevalier de l'ordre du mérite.
C'est tout à fait exact.
C'est vrai.
Qu'est-ce que tu fais avec ça?
Pas grand chose. Et surtout, je suis hyper déçu parce que on m'a pas donné d'épée et on m'a pas donné de cheval. Alors, on a fait une remise et alors mes potes sont venus déguisés en tant que comme ça, c'était assez
mort,
cool. Et j'ai des potes qui m'ont dessiné un blason. Donc j'ai un blason qui a été fait. Mais moi, on m'a pas donné
du
d'épée.
Du coup, ils t'ont filé une petite médaille et tout. Et
ouais, un truc bleu que t'achètes toi-même. Du coup, tu
sérieux? C'est un truc,
mais c'est. T'es obligé d'acheter une petite médaille bleue en argent. Argent, etc. Ça coûte une fortune.
Quand
cette
tu t'es obligé.
Et ben oui, parce qu'on te la remet, mais t'as pas le droit de la porter.
Ah oui.
Le moment où t'as le droit de la porter, en fait, c'est que quasiment quand on la te remet, et une fois tous les 25 ans. Et sinon, après, t'as le droit de porter un petit ruban bleu sur tes costards. Donc, comme tu vois, ça m'arrive souvent puisque j'ai toujours un costard.
Et en vrai, du coup, j'embraye directement, je suis désolé.
Vas-y, je t'en prie.
Mais ça va
pas attends, il était en train de faire sa présentation. Tu lui pètes sa présentation, puis il a écrit. Très rapidement.
Très rapidement, à quoi ça sert en fait? Est-ce que t'as des réunions avec tous les gens stylés de France? Est-ce que t'as genre... ouais, qu'est-ce qui se passe quand t'as ce truc?
Rien.
Ok, d'accord, c'est extrêmement décevant en fait.
Non, c'est pas décevant, mais on en parle après, vas-y, laisse-le. Okay.
je voulais raconter une anecdote rigolote, c'est que les gens, la dernière émission était avec Ajax, oui, c'est ça. Et les gens, ils ont cru que t'étais bourré. Pourquoi mais moi aussi, il y a des gens, ils ont dit que moi aussi. Mais
parce
je pense
qu'on n'arrêtait pas de dire que les bars venaient de réouvrir.
Mais oui, en fait,
on n'arrêtait pas de dire, allez, on va aller boire. Mais on n'avait absolument pas bu d'alcool.
C'est ça, je pense, en fait, surtout, les gens ne sont pas forcément habitués, comme on reçoit plein de monde ici, c'est pas toujours des gens qu'on connaît très bien.
Ouais.
JB, on se connaît, on s'est déjà vu, mais on n'est pas meilleurs potes dans la vie. Et là, du coup, comme c'était une émission un peu spéciale où on était que entre nous, ils ont dû voir notre vrai visage. Et du coup, apparemment, entre nous, les gens.
Apparemment, on est
que...
un bourrage 24. Mais tant mieux, ça veut dire qu'on est cool, tu vois.
Ouais. Écoute, interprétons-le comme ça. Ce sera plus simple. Je vous fais un petit programme de l'émission. On va parler de Shadow, bien entendu, de ce qui s'est passé rapidement quand même, parce que le but c'est pas de revenir sur encore tous les éléments. Vous pouvez aller voir ma vidéo pour ça dédiée, où on a justement discuté avec JB. Donc on va quand même passer dessus, parce que quand même c'est important. Il s'est passé des trucs depuis la dernière fois, mais on va vite embrayer derrière sur les questions que vous posez. On vous a demandé sur Twitter. Toi aussi, tu as demandé d'ailleurs. Tu fais de la concurrence à nos tweets, donc franchement.
Ouais, mais comme wow. C'est un truc qui est dans mon domaine, tu vois, c'est.
T'as très bien fait. Avec ça, on a eu plein de questions et qu'on va poser à notre JB national. C'est pas tous les jours qu'on a.
Qui est quand même chevalier.
Qui est quand même chevalier, hein, tiens, précise.
Tu m'appelles chevalier JB, je te tue.
Je vais t'appeler chevalier maintenant.
Ah bah, tu peux.
Non, mais surtout pour dire que pour les gens qui ne savent pas, VLC, c'est quand même un des logiciels français les plus téléchargés au monde, voire le plus.
Le plus.
Ouais, on peut dire le plus. Et donc c'est pas tous les jours quand même qu'on a cette expérience là, donc vous avez eu plein de questions hyper intéressantes, on verra ça. Ensuite on fera un petit vrai ou faux trollesque, vous allez voir, ça va être rigolo. Et enfin je vais vous raconter une histoire. Mais bien on entendu, c'est extrêmement préparé cette émission. Et à la fin, je vais vous raconter l'histoire d'un hacking complètement ouf qui concerne un pipeline aux États-Unis. Peut-être que vous avez vu passer cette info.
Évidemment.
J'en ai parlé en live.
Bien entendu. T'en as parlé en live. Évidemment. Mais on va revenir dessus dans les moindres détails. Ça va être méga, méga cool. Et puis voilà, quoi. C'est le petit programme de la soirée. N'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch. J'oublie toujours de le dire, mais c'est évident. Si vous aimez en train de hype, extrêmement cool. Si vous aimez notre émission, ça nous soutient énormément. Et puis voilà, quoi. On va pouvoir commencer tranquille. Pour revenir sur l'épopée Shadow, on va dire. Est-ce que tu déjà toi, qu'est-ce que tu fais en fait maintenant là? T'es passé déjà à autre chose? T'es encore encore un pied dans les histoires de il y a un mois? T'es comment?
Alors justement, c'est pour ça que c'était important de dire que c'était Blade, parce qu'en fait moi je suis le dernier employé de Blade. C'est-à-dire qu'en fait, tous les actifs, la marque, Shadow, etc.
Franchement, on l'a noté, c'est à mourir de rire.
Sont partis en fait sur la boîte qui s'appelle Ubik. Et moi, je suis resté chez Blade. Donc là, je suis dans Blade, qui est une société en liquidation. Et donc, moi, j'ai eu un entretien préalable au licenciement pour motif économique. Je suis dans la boîte. Tu sais,
t'es tout seul.
En fait, c'est comme si t'avais un bateau qui arrivait. Ils ont attrapé tout le monde. Ils ont attrapé tous les trucs qui étaient cool, le projet. Ils ont tous les trucs qui étaient en feu, ils les ont laissés. Et puis ils m'ont laissé sur le bateau. Et le bateau, il va tout droit. Et tu vois, c'est le bateau qui coule. Et en plus, il va dans un mur.
Mais du coup, est-ce que j'ai une question que personne ne t'a jamais posée, qui est stupide.
Il n'y a pas de question. Non, attends. Il n'y a que des réponses stupides.
Est-ce que dans tout ça, dans ce braquage complet, t'as eu un chômage du coup?
Eh ben en fait même pas. Parce que...
Non mais c'est vrai. C'est rigolo quoi. Tu vois,
en fait c'est hyper. Donc il y a.
Ben non, c'est rigolo ou triste, je sais pas.
Ouais, c'est rigolo aussi. On va rigoler. On est là pour rigoler, ouais. Même si on n'a pas bu avant, promis. En fait, il y a plein de trucs en fait qui sont notamment un truc qui s'appelle le CSP, qui est donc le contrat de sécurisation professionnelle. Mais il faut avoir un an d'ancienneté. Et moi, en fait,
t'avais 8 mois.
J'ai 8 mois, mais surtout, j'étais au 3/5e. Donc, en fait, c'est comme si j'étais que 5 mois dans la boîte. Donc, en fait, j'ai pas le CSP. Donc, évidemment, je peux récupérer des choses. Mais comme je suis patron de ma boîte à côté, en fait, ça se conflicte, etc.
Donc t'as rien. Et donc, t'es là, t'es tout seul sur ton bateau en flamme.
Je sais pas, mais,
salut.
C'est un peu ça. Et donc là, j'ai posé plein de questions à Pôle emploi. Donc,
Excuse-moi, mais je t'imagine à Pôle emploi. Oui, en fait.
Excusez-moi.
J'étais au PDG de Google, en fait. Mais
c'est un peu compliqué. T'arrives, tu dis, bah, en fait, j'étais au 2/5e sur ma boîte. Mais en fait, j'étais dirigeant salarié. C'est une SS. Ah, mais de l'autre côté, en fait, etc. Et les mecs, ils ont fait,
Et puis, on va vous mettre intermittent du spectacle.
Non, surtout, ils te disent, en fait, ils te disent, inscrivez-vous au chômage et on verra ce que le logiciel va vous donner. Donc ça se trouve, je vais avoir un.
On demande au grand logiciel. Fou, hein.
J'ai pas besoin d'argent. Enfin,
oui,
mais... C'est pas que j'ai pas besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent, mais j'ai jamais.
Je pense que tu vas mettre beaucoup de temps. On va en parler justement.
J'ai jamais fait les choses pour avoir du pognon. Bon, j'ai une vie très cool.
On va parler rapidement de ce que tu peux envisager peut-être pour la suite, ce que tu pourras nous dire. En tout cas, il y a sûrement plein de choses secrètes dont on a parlé avant l'émission. Mais pour rappeler les faits déjà, peut-être pour ceux qui débarquent complètement, qui ne savent peut-être pas ce qui s'est passé, vous avez raté ma vidéo, c'est terrible. Donc tu as pris la direction technique en septembre dernier de Shadow, mm-hmm. Tu étais donc CTO. Mm-hmm. Il y a eu un redressement judiciaire en mars. Mm-hmm. En parallèle de ça, c'est là où ça commence à se compliquer, tu as formulé une offre de reprise.
Tout à fait.
Pour l'entreprise. Donc, ce qui est déjà pas avec anodin.
Voilà. Et tout.
Exactement, ah, avec un certain nombre d'autres employés. T'as eu l'appui de Iliad, donc le groupe de Monsieur Xavier Niel, ainsi que... c'est ça en gros. Enfin, c'était l'offre de Scaleway à la base.
Mm-hmm. En fait,
pour les détails, vous pouvez les voir.
En fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est un jeu de poker en deux tours. Donc en fait, pour pouvoir jouer au deuxième tour, en fait, il faut bluffer et il faut rentrer dans la donne. Donc en fait, nous, on savait qu'il y avait des gens qui allaient poser des offres, notamment Octave, mais en fait, tu sais pas s'il allait faire une vraie offre ou un truc sérieux. Ouais. Donc pour éviter qu'il soit tout seul, toi, tu es obligé de faire une offre. Et pareil, Iliad aussi, ils avaient fait leur offre, enfin, un Scaleway. Ouais. Donc en fait, tu es obligé de... C'est vraiment du poker, c'est-à-dire que tu dis...
Tu réfléchis aux mains des autres et...
Non, et c'est juste pour voir. C'est-à-dire vraiment, tu mets le jeton pour voir. Et le premier tour, c'est ça. Donc nous, on a mis un jeton pour voir et surtout pour... Et puis surtout... Pour faire augmenter les enchères. Ouais. Parce que si tu te retrouves tout seul, toi, tu mets 1 euro symbolique, t'as la boîte, etc.
Et puis tu récupères tout.
Et donc là, en fait, ça a fait augmenter les offres, le fait qu'on y est. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est allié, en fait, on a fusionné notre offre avec celle de Scaleway est devenue celle d'Iliad une fois qu'on a convaincu Xavier de nous suivre.
Ok, donc à la fin, ça fait toi, d'autres employés, plus Xavier Niel, égale une super offre insane. En face de toi, il n'y en avait pas 10 000, il y en avait une seule, c'était celle de Octave, du groupe de Octave Klaba, le PDG de OVH, l'hébergeur que vous connaissez sûrement. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'offre d'Octave qui a remporté le pactole. Est-ce que tu as une idée de ce qui a joué, ce qui a pesé dans la balance?
Ouais, c'est très très simple. Les juges, ils ont rien compris au film, rien du tout. Ils ont vu les deux, ils ont fait « Oulala, ça a l'air sérieux les deux ». L'offre d'Octave, elle mettait 5 millions sur la table. C'est l'offre d'achat, hein, pas l'offre d'investissement. Nous, on mettait 4 millions. Et eux, ils sont payés, notamment l'administrateur judiciaire, il est payé en pourcentage du prix d'achat. Donc, ils ont pris.
Attends, je savais pas que ça marchait comme ça en France.
Mais aussi. Hein.
Ils sont payés au pourcentage du prix d'achat?
Bah, l'administrateur judiciaire, oui.
Mais ça n'a aucun sens.
Bah, si, en fait, lui, son but. En fait, lui, il va payer les créanciers avec le prix d'achat. Donc, son but, c'est. Ton but, c'est de payer les créanciers. Donc, évidemment, le but, c'est de faire monter le prix. Donc, lui, à la fin, il dit les deux, c'est bien. Celle-là, il y a plus. Voilà.
Donc, le juge, il a fait attends, 5, c'est plus grand.
C'est 4, c'est bon.
Voilà, c'est exactement ça.
Attends, mais excuse-moi.
Attends. Arrête-moi une seconde, Thierry, mais.
Bon, donc, pas plus d'infos, ça doit être frustrant de ton côté, non, de ne pas te dire que ça se joue sur des éléments concrets ou.
Ouais, surtout, je reste persuadé que notre offre, elle était beaucoup mieux pour le futur de Shadow et que notre vision, c'était vraiment de continuer le projet. Alors que Octave, il parle de Google Suite, qui, à mon avis, aucun lien avec Shadow. Mais c'est le jeu, quoi. Alors, par contre, ça a été un niveau de stress que j'ai jamais eu de ma vie. Ouais. Et c'était
une expérience cool, quand même.
C'est génial. En fait, c'est génial techniquement. On a appris beaucoup de choses. J'ai appris ce que c'était les redressements judiciaires, la reprise de société. On a remonté le business plan de Shadow et le business model de Shadow en 3 semaines avec Yanis qui a passé des nuits avec le CFO d'Iliad, etc. On s'est pris avec Fergus deux masterclass de Xavier à son tableau blanc qui nous a expliqué le business model.
Pas sûr que t'as beaucoup d'occasions de autre que
je te promets,
celle-là.
On devait le voir 40 minutes, ça a duré 4 heures, ouais. Et toutes les demi-heures, il y avait un mec, il appelait quelqu'un, et c'était le directeur financier, etc., qui arrivait dans son bureau, et on a refait le film, et franchement, on s'est pris une claque business, mais je pense que, avec Fergus, on a fait un MBA en 4 heures. Littéralement génial. On a pris des décisions en 3 semaines avec cette équipe de 6 personnes, avec notamment, Julien, Étienne et Virginie, plus les 3 autres, qui sont des décisions que depuis septembre, personne de cette direction de Blade a été capable de prendre. On a fait, on fait ça, parce qu'en fait, t'as pas le temps. Donc et voilà. Donc ça, c'était super intéressant. On joue, on rate. Franchement, on a fait notre maximum. Et puis surtout, on partait désavantagé. Octave, il travaillait avec la direction depuis octobre sur le sujet. Nous, on a monté ça en littéralement 15 jours. Ce qui est intéressant quand même, c'est que on est parti avec Xavier, mais avant ça, en fait, on avait levé en 3 semaines 35 millions d'euros. Et on a décidé que c'était mieux d'aller partir avec Xavier parce que ça permettait, en fait, de pas.
Ah, tu veux dire que t'aurais eu une autre piste? C'était pas le dernier recours, ouais.
En fait, on avait une autre piste. On avait à peu près levé 35 millions d'euros. Mais en fait, le problème, c'est que ça permettait de remonter la boîte.
Ce qui aurait fait le même fee, d'ailleurs, du coup, au final, dans la poche
du redresse. Oui, mais en fait, ce qui se passe...
En pourcentage.
Non, parce que le prix d'achat qu'on allait mettre, ça aurait été 3 millions. On n'aurait jamais...
Ah oui, ça aurait été moins.
En fait, t'as le prix d'investissement. Mais même si, tu vois, si on avait levé 35 millions et on partait et on gagnait avec 35 millions, en fait, ça veut dire qu'un an et demi après, pour faire croître la boîte, il fallait aller relever de l'argent. Et on s'est dit que c'était beaucoup mieux d'être avec Xavier, qui avait la puissance de Iliad, parce que Iliad, il pouvait mettre 200 millions s'il voulait.
Et puis ils ont plein de trucs, ils ont des
donc très très belle expérience, un niveau de stress comme j'en ai jamais eu de ma vie. J'ai été un peu dégoûté à la fin, voire plus que dégoûté, mais
tu t'en es remis depuis.
Non, mais c'est pas ça, c'est que moi j'ai un et j'en parle souvent. En fait, moi mon seul but, c'est de faire le maximum. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, c'est...
Capable de voir que c'était hors de ton contrôle et que donc, il faut pas se flageller sur ça.
Pour moi, ce qui est important, c'est le soir d'aller me coucher et d'être fier de moi.
Ouais.
Et moi, sur Shadow, en fait, il y a plein d'employés qui t'en parleront. J'ai fait plein de trucs pour leur vie perso, pour des trucs à côté de la boîte, parce que je fais mon maximum. Moi, je vais essayer d'aider, je fais mon maximum. Je suis un mec tout à fait normal, je suis loin d'être un super-héros. Et donc, j'ai mes petits moyens, mais au moins, je veux être... Et tu vois, là, je voyais Shadow et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire au maximum et j'ai donné mon maximum. Mon maximum,
et
c'est
et au final t'en as tiré des
mais même sur les 8 mois, tu regarderas le bilan technique que j'ai en 8 mois, il y a plein de trucs qui ont été promis depuis 5 ans qui ont été shippés, donc je suis très content. J'ai fait mon maximum pour le redressement. On aurait dû mettre 6. Bon bah
tant pis.
Tant pis.
Il y a un truc qui que j'ai vu passer régulièrement, c'est que les gens se demandaient pourquoi sur l'offre, parce que c'est une des particularités de l'offre de OVH, enfin non, de Octave plus précisément. Du fond d'Octave, ils reprenaient tous les employés, sauf un. Alors les gens se sont demandé qui c'était.
Alors en fait, c'est pire que ça. C'est qu'en fait,
qui est-ce qu'on aime pas?
Qui n'est pas invité?
C'est pire que ça. C'est pas moi qui l'a pas repris. C'est pas il n'a pas repris mon poste. D'accord. Tu n'as pas le droit de discriminer par personne. Oui. Tu as le droit de ne pas reprendre.
Il n'y a pas de CTO actuellement.
Donc il n'a pas repris de directeur technique.
Ok.
Et attention, pendant 24 mois à partir du 8 juin,
il peut pas me mettre un directeur technique.
Il ne peut pas mettre de directeur technique parce que s'il met un directeur technique, je suis prioritaire. Et je suis prioritaire sans période d'essai à mon salaire précédent. Donc si jamais il fait une offre de directeur technique pour la boîte Ubique, je suis prioritaire et je ferai jouer mon droit de priorité, c'est évident.
Je ferai valoir mon droit.
Parce que quand même, faut pas déconner. Et même chose, il ne peut pas avoir un VP of engineering ou quelque chose comme ça qui a les mêmes fonctions. T'as pas le droit de tricher. Et ça, alors, se faire gaffe.
Comment
que...
ils vont faire?
Attends, mais
c'est ça c'est du pénal, hein. C'est du pénal, c'est hyper grave de faire ça parce que c'est à dire que t'as menti au tribunal. Donc en fait, il a juste dit, je n'ai pas besoin du poste de directeur technique.
Il n'y a pas de direction technique. C'était.
Alors moi, je pense que c'est une erreur grave de sa part. Parce que en fait si enfin ça me semblait évident qu'il me veuille pas moi, je peux comprendre, j'ai fait une offre concurrent, c'est normal, t'as pas envie d'avoir un concurrent. Moi je pense que c'est une erreur parce que c'est mal me connaître, parce que je me serais donné à fond pour Octave comme je me donne toujours à fond dans tous les projets, mais surtout s'il me voulait pas, il me reprenait et il me disait mec écoute tu pars, fais-moi la transition, etc. Là non, en fait.
C'est ce qu'on s'était demandé.
Tu aurais préféré avoir une rupture conventionnelle, un truc comme ça. Et...
Mais même pour lui, c'est-à-dire que là, ouais. Je pars, j'ai aucune de mes clauses de non concurrence, de non débauchage, j'ai aucune concurrence de confidence, enfin de clause de confidentialité, puisque tout ça, ça a pété.
Et c'est pour ça qu'on a les bilans comptables. Le PDF est là.
Mais donc en fait, et en plus, il a pas le droit de recruter un poste de directeur technique. Ouais. Ou l'équivalent, tu vois, mêmes missions.
On a eu des longs débats justement sur ce côté-là de est-ce que en fait si toi t'étais resté dans l'entreprise, est-ce que potentiellement tu serais parti en mode voilà j'ai essayé de récupérer de devenir CEO.
Ouais, ou est-ce que t'aurais kiffé aussi bosser.
Ou alors est-ce que t'aurais continué? On était honnêtement pas du tout pas du tout d'accord.
Une discussion avec Xavier, c'était ce que j'aurais été CEO, c'était même pas sûr que je sois CEO.
Oui.
Tu vois, on a fait une offre pour être sérieux, mais tu vois, c'était une des discussions.
Enfin, Xavier Xav, comme tu l'appelles, quoi.
Je l'appelle pas Xav. c'est Xavier Niel et j'ose pas trop l'emmerder, tu sais. Mais en fait, non, c'était même pas sûr que je finisse CEO. Ouais. D'ailleurs, je suis.
Mais du coup, je me souviens de débats enflammés qu'on avait en mode, mais non, mais du coup, il se passerait quoi? Il va rester dans l'entreprise après? Est-ce qu'il va partir de lui-même?
On a fait le film. On a fait du fantasy football.
En fait, je suis quelqu'un, j'ai plein de défauts. Mais je suis quand même globalement honnête. Il m'aurait dit, écoute, JB, je veux pas te voir. Bon, je lui ai dit, bon, écoute, vas-y, donne-moi 3 mois de salaire, je m'en vais. Tu vois, j'ai même proposé de lui refiler ma roadmap. Ça l'intéressait pas. Donc, bon, bah, écoute, tant pis.
Ah bah, okay. On voit une vidéo de Xav d'ailleurs.
Le frérot, hein.
Le frérot Xav, on le salue, bien sûr.
Qu'on recevra la semaine prochaine. Non, c'est
génial.
Bon, franchement, je te dis, moi, c'est.
Franchement, il est incroyable.
Ouais.
Et il a l'air.
Il est incroyable.
Moi, j'allais dire, c'est pas impossible de chez impossible. Non, si la mission elle grandit,
il est vraiment, vraiment impressionnant. Ça, je dois avouer que.
Ouais. En fait, il a l'air très smart. Genre, ça se voit. Je sais pas pourquoi.
Oui, bon, bah.
Et en fait, surtout.
T'as pas dit grand chose là quand tu dis
ça.
Vous avez l'air intelligent, vous seriez pas PDG de 15 milliards.
Ouais, mais alors ça veut rien dire. T'as quand même plein de PDG de grosses boîtes qui sont des crétins finis.
Ouais, non, mais il est.
C'est pas ça. C'est un geek.
Oui.
C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que il a le tempérament geek. Tu le sens, en fait. Par exemple, quand il fait ses présentations sur scène, tu sens que ça le fait, qu'il sait pas son truc, il aime pas ça, tu vois. Il aime bien être en petit comité, donc c'est plutôt un geek financier, etc. Mais il a vraiment ce tempérament où c'est pour ça que nous, vous serez avec lui, vous entendrez trop bien parce que vous avez ce
feeling. Écoute, moi je suis OP. Franchement, si.
Je voudrais trop savoir, tu vois, si Xav est sur Wall Street Bets, tu vois. Ça me fumerait de rire.
Attends, mais est-ce que tu penses que Elon Musk est sur Wall Street Bets?
Oui, il a déjà dit.
Ouais, c'est clair. Bah, je pense que Xavier aussi, c'est évident.
Alors que ce soit Xavier ou Elon Musk, hein, moi, je reste très ouvert, hein, comme personne. Elon, hein. Voilà, tout le monde est bienvenu ici. partir du moment où vous avez 4 entreprises au CAC 40.
Et donc voilà, donc minimum. Donc évidemment, c'est ça, donc il a pas repris mon poste. Ouais. Et nous par exemple dans notre offre, on avait des postes qu'on considérait qui étaient pas nécessaires et donc on a enlevé des postes. Mais lui, il l'a fait vraiment pour pas m'avoir et je pense que c'est pas une bonne idée.
Alors pour je veux surtout pas m'éterniser dessus parce que surtout tu n'as à voir jusque là de parler de ces histoires de Shadow.
Franchement ça va.
Ouais.
Il y a 2 semaines je t'ai
envoyé
chier. Je pense que j'ai plein d'autres trucs intéressants mais ouais. Il y a 2 semaines je t'ai envoyé chier là au forum.
Bon, c'est excellent parce que une des questions que je me posais justement c'est toi de ton point de vue, voilà, forcément tu nous disais que évidemment que tu penses que ton programme aurait été supérieur etc. Mais quel pronostic quand même tu donnes, tu vois, si tu devais donner un avis sur les chances de succès d'un Shadow etc.
Ça va être compliqué hein. Ouais, je pense que ça va être compliqué pour lui parce que je pense que niveau sa vision en fait il parle d'un Google Suite autour du BIC, ça, enfin pour moi ça n'a rien à voir avec Shadow, même si, et puis il dit oui mais il y a Shadow quand même sur le côté, je vois pas, donc je pense que déjà niveau vision ça va pas.
Mais alors, la partie tech qui a été déjà faite, il y a des choses qu'il récupère quand il
va essayer, mais je pense que, enfin, il faut qu'il fasse très attention parce que sinon il risque de perdre beaucoup de gens dans les équipes qui sont déjà des gens fatigués. Il faut qu'il trouve quelqu'un qui soit un directeur, qui soit un peu un VP of Engineering, qui n'est pas le scope de directeur technique, qui soit pas capable d'emmener les équipes. Et puis Shadow, il y a beaucoup de choses dans la tech qui est pas vraiment très documentée. L'architecture, elle est un peu compliquée. Enfin, c'est difficile. Donc, il faut y arriver.
C'est un projet un peu alien.
Donc, c'est un sac de nœuds que t'as mis 6 mois à comprendre et que maintenant,
je dirais pas que c'est pas un sac de nœuds, mais c'est que quand tu vas perdre des gens, tu vas être un peu ça va être un peu difficile. Et j'ai peur, notamment, son style de management soit un peu difficile pour beaucoup de gens dans la boîte qui sont déjà fatigués. Okay. Après, moi, je trouve que, enfin, il n'y a pas de raison que c'est un projet qui meurt. Tu vois, il y a un vrai besoin. Est-ce que il va réussir à avoir les bonnes offres, notamment avec les nouvelles générations de cartes? Ça, c'est un vrai sujet. Et moi, j'étais même pas sûr qu'on ait réussi à craquer le truc, quoi.
Ouais. Bon, à voir. En tout cas, dans tous les cas, tout ça. Enfin, nous, on le répète régulièrement, mais on a très envie que ça fonctionne, honnêtement.
Pronostic,
oui, puis OVH, elle est insolide, tu vois. Donc
ouais, franchement.
55% de chances de succès.
Ah!
Allez, vas-y.
On a un petit prono. Mais ouais, moi, dans tous les cas, on a vraiment très envie que ça marche.
Voilà, que ça marche. Et
comme on le disait, voilà.
Ça marche pour rien, parce que j'ai quand même investi du temps dedans. Il y a plein de features qui sont arrivées, qui fonctionnent. Et puis surtout, moi, j'utilise Shadow, donc j'aimerais bien que ça tienne, quoi.
Il y a une grosse affection pour le projet chez pas mal de gens. Je sais que moi, je l'ai, tu vois.
Bah ouais, surtout tous les early, etc.
Même si je suis plus dedans et tout.
Et puis surtout, on cherche des sponsors, donc ça nous arrange toujours vraiment que ces boîtes survivent. Voilà, petit, un petit, là, ici, là, un petit Shadow qui défile, par exemple. Non? Ça peut être pas mal, hein? Non, voilà, bon, le message est passé. on revient sur on quitte la sphère Shadow, on revient sur les questions que vous nous avez posées, sur Twitter, enfin, que vous
avez
posées.
Je veux pas d'abord répondre sur l'histoire du chevalier, sur ta question.
Mec, j'adorerais. J'ose pas le dire depuis tout à l'heure.
Ça ne sert à rien. Et surtout, en fait, c'est un monde complètement chelou où, en fait, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens les demandent. Donc, t'as ton truc, t'as...
Quoi?
Ah oui, ouais.
Je vais le demander pour rire.
Ouais, tu vois, c'est comme les verified sur Twitter.
C'est... Ouais, non, c'est le verified des boomers, mec!
Donc, en fait, t'as deux trucs. T'as donc la Légion d'honneur, qui est le petit truc rouge, le ruban rouge.
Je sais, j'ai une réaction.
Et l'Ordre national du mérite, qui est donc ton petit truc bleu.
T'as ton badge vérifié.
Et en fait, à partir de 50, 55 ans, tous les maires, tous les conseillers généraux, etc., ils demandent tous. Et en fait, t'as pas le droit vraiment de demander. Donc, c'est un pote à toi qui demande et qui monte ton dossier. Et donc, en général.
Il n'y a pas un formulaire, genre.
C'est comme la page Wikipédia.
Et, voilà. Et donc, normalement, tu es au courant. Tu vois? Et donc, c'est un process. Et donc, t'as une enquête, faite par,
la
chancellerie de
Est-ce
de
que vous êtes plutôt un chevalier ou,
et
pas vraiment?
Pose des questions. Et évidemment, en général, c'est des gens un peu connus qui ont vraiment fait quelque chose, quoi. Et
tu es ces deux choses quand même, faut pas déconner, tu vois.
Non, pas du tout, carrément pas.
Le gars qui a fait VLC.
Alors, d'abord, j'ai pas fait VLC tout seul. Et deuxièmement, parce que t'es un gros geek que tu me connais, mais en vrai, les gens normaux, ils me connaissent pas, quoi. Et
depuis l'interview qu'on me dit, il y a eu un avant-après. Hein. Je sais pas si t'as remarqué ça dans ta vie.
J'ai remarqué ça, c'est vrai. Ouais. Et surtout qu'elle est. Elle est géniale, cette interview Combini, parce que on a shooté pendant 1h30. Le résultat, il dure, je sais pas, 3 minutes. Et franchement, c'est top.
Ouais, c'est toujours ça.
Donc, je réponds quand même à ta question. Et donc, moi, j'étais pas au courant.
C'est quelqu'un qui, un proche qui,
non? Et non, pas du tout. C'est Mounir, en fait, qui fait la demande pour moi.
Mais non, mais
Mounir, incroyable, en disant, j'en ai marre de donner des médailles pour des mecs qui foutent pas grand chose. Je veux aider, des gens qui font vraiment quelque chose pour le numérique. Et donc, il a nommé. Et donc, quand c'est ministre. Et donc, après, t'as eu tout un truc. Ils ont appelé, en fait, un des gars qui bosse sur Videolan qui ne m'a pas répondu. Enfin, qui m'a pas dit. Et donc, moi, ce qui se passe, c'est que,
Si tu peux préciser pour Mounir. Qui est
Mounir là-bas. Majoubi, c'est l'ancien
secrétaire
d'État au numérique. Je sais pas si il était ministre d'État ou secrétaire d'État.
Secrétaire d'État. C'est Moumou, comme on l'appelle.
Je vais te le dire méchamment, mais un des meilleurs secrétaires d'État au numérique qu'on ait vu. Il savait vraiment de quoi on parlait.
On l'avait reçu en interview sur une vidéo. Était méga, méga sympa. Ouais.
Et super sympa. Il est dans le 19e à Paris. Il est vraiment hyper cool.
Voici son adresse et son numéro.
Je suis pas sûr d'avoir le téléphone de Mounir, mais je pense que ça peut se trouver. Et donc voilà. Et donc l'histoire commence comme ça. J'ai un pote qui m'appelle. Non, j'ai un mec qui s'appelle Gaël Musquet, qui est un mec d'OpenStreetMap, qui m'envoie un message et le mail c'est félicitations.
Bon. Ok.
Et donc, en fait, je crois genre, c'est devait être en octobre ou en novembre. Et ma femme était enceinte de 4 mois. Et alors, j'envoie un mail avec Gaël.
Comment t'es au courant ?
Je dis mais comment t'es au courant ? Bah, il me dit, je lui dis comment t'es au courant que je vais avoir un enfant quoi. Il me dit ah mais pas du tout. C'est pas et je lui dis mais de quoi tu parles. Il me dit mais t'es pas au courant. Enfin tu vois les mails vraiment relous. Mais bah, vas-y couche. Et il m'envoie un message et donc effectivement c'est passé au bulletin. Tu sais ça passe au journal officiel des trucs comme ça. Ouais. Et
t'as jamais été mis au courant avant quoi.
Et j'ai pas été mis au courant avant. Et donc en fait c'est marrant, c'est que je dépendais, donc en fait l'ordre national du numérique, tu dépends d'un ministère, donc ce ministère je sais pas, économie et des finances, t'as le PDG de Louboutin et c'était Repetto, je crois, le PDG de Repetto, virgule Jean-Baptiste Kef. Et en fait tu sais il y a 600 personnes tous les 6 mois quand, et puis ils font un brief des trucs les plus importants.
Il y en a beaucoup donc.
Ouais, il y en a beaucoup. Et
beaucoup de chevaliers.
Vraiment.
Et ensuite après t'as des grades. Une fois que t'as été chevalier.
Arrête, mais c'est un MMO. Mais ce pays est un MMO.
Mais en fait,
je te jure,
c'est l'inverse. En fait, c'est Napoléon qui a créé cet MMO et les autres, et c'est les MMO qui ont copié.
On est dans Azeroth.
Donc ensuite, tu peux être officier.
Les références.
Après, tu peux être grand chevalier, grand croix. Enfin, tu vois.
Et tout ça ne sert à rien. J'aime bien. Il y a pas un petit banquet annuel. Il y a pas.
Évidemment, il y a forcément des associations. Je fais partie de l'association des anciens, etc. Mais en fait, évidemment, ouais, tu dois voir. Commandeur, je pense. C'est ça? Commandeur, grand croix, grand officier.
Ah non, mais le pire, c'est que vraiment, ça te fait des upgrades de ton équipement.
Les gars, il y a un loadout. On est dans Modern Warfare.
Attends, mais, et surtout, t'as pas le droit. Alors, acheter ça et le porter.
Ouais.
Alors que tu l'as pas, tôle. Mais tôle direct, quoi. C'est hyper grave, ça s'est fait partie.
Combien coûte le petit médaillon?
Le médaillon, je crois qu'il coûte 300 euros.
Ah ouais.
Voilà. Okay. Et tu le mets une fois dans ta vie.
En fait, ils avaient besoin de thunes, les mecs. Il y avait un besoin d'argent.
On peut pas faire un petit portatif, un petit pendentif.
Donc, la réponse, à quoi ça sert? En vrai, c'est super cool. C'est pour reconnaître que, il y a des choses qui se font en France qui sont cool, sur le logiciel libre. Et donc, moi, ça me gêne un peu parce que c'est une récompense personnelle pour un projet qui est commun. Il n'y a pas que moi qui ai bossé sur VLC, surtout pas. Mais, donc ça m'a vraiment fait chier, en fait, de le recevoir. Mais en même temps, ça montre quand même, parce que tu peux pas avoir une récompense comme ça sur une association, ça montre quand même que ce qu'on fait est utile. Donc, juste le fait de dire.
Et puis tu restes la face visible, tu vois, on pense VLC,
ça,
on pense
ça,
à toi.
Ça limite, on s'en fout, mais surtout, on dit, ça veut dire que l'État français dit, bon, il y a des trucs dans l'open source qui sont vraiment cool. Et donc, pour ça, c'est utile, et c'est reconnu, et voilà.
Ça, c'est la vision de Mounir, du coup.
C'est la vision de Mounir.
Là, voilà. VLC qui est quand même, est-ce qu'on sait précisément combien de téléchargements, ou de combien d'utilisateurs?
On peut pas savoir. Ce que je sais, c'est le nombre de téléchargements qui est sur notre site.
Il y a des versions repackagées.
Il y a 0.1 net déjà.
Il y a 3
virgules. Bah, c'est vrai. Ouais.
Sur notre site, je pense qu'on a shippé à peu près 4 milliards de versions. Mais, ouais, mais en fait, à
le
chaque
prix
update.
De la bande passante.
Ouais, chaque update,
elle est comptée plusieurs fois. Donc, le prix de la bande passante.
4 milliards de DL.
Mais en fait, ça va. Mais c'est vrai que chaque jour, on fait un million de téléchargements par jour. Un million de téléchargements par jour.
C'est-à-dire qu'il y a un million de gens qui n'ont pas VLC sur leur machine tous les jours.
Non, il y a des updates.
Les trois quarts de ça.
Ah, tu comptes les updates. Oui, d'accord. Okay.
Mais tu me parles de bande passante. Excuse-moi, les updates, ça fait de la bande passante. C'est pas de la bande passante gratos. Donc voilà, donc tu fais x 40 mégaoctets. Voilà. Et en fait, on a créé notre propre CDN. On a à peu près 200 miroirs dans le monde. Certains qui sont, on paye des machines, d'autres c'est les gens qui nous les donnent. Et c'est comme ça qu'on ship,
qu'on spread.
Mais donc voilà.
Alors première, j'embraye sur les
et
questions de la
communauté. Combien d'utilisateurs? Ouais. On ne sait pas. Mon estimation, c'est à peu près 350 millions d'utilisateurs actifs par mois sous Windows, à peu près 35 millions sous Mac, ça donne 380. Et après, sur les autres plateformes, ça fait à peu près une trentaine de millions.
Oui, parce que t'as absolument aucun tracking, même pas un truc anonyme qui dit « je suis là », quoi.
Ça s'appelle de l'espionnage, ça s'appelle pas du tracking, ouais. Et non, je ne fais pas d'espionnage.
D'accord, monsieur.
Non, mais si tu me cherches là-dessus, c'est forcément, tu sais que c'est ça.
Ça allait vite. Première question basique. On est obligé de la poser, mais vraiment.
Vas-y.
C'est parce qu'elle est venue 15 milliards de fois. Pourquoi un plot?
À ton avis?
Moi, je sais. En fait, c'est pour ça. C'est parce que je te repose la question.
En fait, il faut savoir que le projet VLC, c'est un projet qui est la continuité d'un projet, qui est la continuité d'un projet étudiant. Donc, c'est, personne n'a voulu créer VLC, quoi. C'est pas un mec qui a lancé une start-up comme Shadow. Donc c'est un projet étudiant qui a évolué. Et évidemment, il y a plein de blagues étudiantes. Et notamment, et qui était géré par l'association du réseau de Central Paris. Qui s'appelait Via Central Réseau. Et qui gérait, en fait, le réseau étudiant. Et c'est eux qui ont créé, des étudiants et des générations d'étudiants qui ont exactement ce truc-là. Et qui ont...
C'est Gabin, c'est notre assistant, il est hyper rapide.
Ouais, je vois ça. Il est... Surtout que ça n'existe plus via Central Réseau, donc c'est ça qui est incroyable. Mais et des générations d'étudiants ont fait ce projet qui s'appelait au début Network 2000, qui est devenu Vidéolan, qui est ensuite devenu VLC. Et il y a des histoires où ils ont un peu picolé, évidemment. Et notamment où ils utilisent une soirée après avoir un peu bu le cône en tant que porte-voix. Alors il y a plusieurs explications. Il y a des gens qui ont utilisé
la légende a évolué au cours des siècles.
En fait, exactement. Moi j'étais pas là, donc je ne sais pas exactement tout ce qui s'est passé. Il y a des gens aussi, enfin, ils sont tapés un délire sur les cônes et ça a été en fait mis dans le logiciel très tôt, notamment parce qu'il y avait un peu une compétition entre les développeurs pour être le premier à mettre une fonctionnalité, et notamment la première sortie vidéo X11 sous Linux. Mais quoi qu'il arrive, ce qui est important, c'est que ça devient un mème, quoi, un mème en interne. Et quand moi j'arrive à Central Paris en 2003, l'étage des geeks, qui était le 2H où il y avait 24 personnes, j'ai compté 255 cônes pour 224 personnes. Et donc, c'était absolument débile. Et franchement, ils ont inventé le cone ball, donc voilà, du cone acrobatique. Enfin, ils ont tapé des délires. Il y a des photos de Sam où ils font des figures avec des juges, où ils sautent du premier étage
et
sur un matelas, etc.
Discipline olympique, quoi.
Et ils sont tapés des tripes, et à un tel point qu'en fait, après, c'est impossible à changer. C'est-à-dire que nous, jamais on pourra changer parce que, d'abord, c'est une marque hyper forte.
C'est un bon signe.
C'est ce que j'allais dire.
On a à peu près 15% des gens qui arrivent sur le site web avec comme mot-clé Cone Player.
Incroyable.
Mais ça, tout le monde vous remarque avec ce truc.
Et quand j'arrive, tu vois, je fais des confs parfois en Inde ou je sais pas, etc. Je me dis, oui, bonjour, voilà, etc. Alors Central Paris.
C'est vous les cônes.
C'est vous les cônes.
Je bosse sur VLC, etc. Mais si, le cône que t'as sur ton ordinateur qui joue des vidéos. Ah oui, évidemment. Ah ouais, okay, etc.
Quoi. C'est que du coup, je l'avais déjà. T'es pas au courant, je pense, mais je l'avais déjà croisé sur un salon au NAB.
Au NAB. Qu'est-ce que tu foutais au NAB?
C'est en rapport avec notre contenu, donc on y va assez souvent. Et
tu vas cette année?
Bah, j'espère. Ouais. Ça va être un peu galère parce que bon, on sait pas si le salon va être bien ou pas, quoi. Mais du coup, je voyais les trois débarquer avec leur cône dans les escalators.
Ouais, tu peux les remarquer de loin.
Au Las Vegas Convention Center, tu vois. Alors, et tu les vois de loin et t'es là genre, ça c'est la French Tech.
C'est beau. Mais en fait, c'est super bien parce que c'est super distinctif.
Et tout le monde,
c'est
assez
marrant.
C'est incroyable.
En plus, c'est un logo, qui est pas connoté politiquement, sexuellement, quoi que ce soit. Enfin, tu vois, c'est un cône du chantier, quoi.
On a très juste... peu, très très peu.
On est créatif.
On a juste fait une blague une année, en 1er avril, où on dit qu'on change le logo de VLC pour un tractopelle. Tu vois, c'était évident que jamais on allait prendre un tractopelle. Et alors là.
Levé de bouclier.
Alors, on a eu des levées de bouclier, bon, ça, les gens s'en rendent compte, mais on s'est pris des insultes parce que on était des soutiens de la colonisation israélienne en Cisjordanie, et là on était
okay. On a mis un tracteur à la base.
Et voilà. Et donc
t'as cherché le rapport ou pas?
Ouais, vraiment,
bah, c'est des tractopelles, les bulldozers, quoi. Pour détruire, tu vois, pour les cônes.
Wow, okay,
après,
oui,
tu prends un mot dans le dictionnaire au hasard, tu offenses.
Je l'avais pas.
Bah, non, beaucoup de gens.
Je l'avais pas, ouais.
Mais donc voilà, c'est un cône, c'est vraiment super sympa et ça marche bien, quoi.
Question suivante. Pourquoi est-ce qu'on peut mettre le son à plus de 100% sur VLC?
Oh.
Alors,
ça, c'est là, je franchement, je n'avais pas pensé, mais. Question.
Parce que, voilà, ça, c'est la bonne réponse. Ça n'est, les gens ne comprennent pas ce que ça fait. C'est 100% de l'input. 200% de l'input. Et en fait, c'est pas 200%, c'est 400% que tu peux faire. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu fais une amplification de ton entrée. Évidemment, tu vas pas à plus de 100% de tes speakers, puisque c'est une limitation physique. Donc, pareil, il y a des gens, ils font, oui, avec VLC, en fait, tu vas exploser, en fait, ouais. tu vas exploser le son de ton ordinateur. Non, c'est pas possible. T'es du logiciel. Toi, tu vas à la limite de ton pilote qui parle à ta carte son. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de films qui sont mal enregistrés. Et donc, bah, en fait, c'est pas assez fort. Donc, tu veux mettre plus fort.
Tu amplifies. Et en fait, c'est ce que font peut-être d'autres logiciels, mais ils le disent pas comme ça, quoi.
Non, je crois que beaucoup ne le font pas, justement. Okay. Et en fait, après, t'as un plugin, en fait, un endroit de son où tu augmentes et tu augmentes le son, tu vois, pour augmenter l'amplitude. Mais en fait, grosso modo, c'est comme si, tu mets un Céline Dion et en fait, c'est du métal parce que ça, c'est ça ton seul risque. Parce que t'as mis un max.
Mais tu vas pas casser tes enceintes. Ouais,
au pire, tu vas écréter, quoi. Tu vas faire du métal basé sur la chanson de Mon Petit Poney.
Ce sera le seul risque. Nouvelle question. Est-ce que c'est vrai que vous avez dû développer
c'est une question
des fonctionnalités anti-CIA dans VLC?
Quoi?
C'est exact.
C'est quoi cette histoire?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, c'est un peu plus compliqué.
Ah oui?
Oh putain. Alors, ce qui s'est passé, c'est que WikiLeaks, avant qu'ils pètent les plombs totalement, ils ont sorti pas mal de trucs sur la CIA. Et notamment, il y a un sujet qui s'appelait Vault 7. Et dans Vault 7, il y a plusieurs trucs qui parlent de VLC. Et un des trucs, c'est que la CIA avait une version spécifique de VLC qui avait un plugin supplémentaire. Et ce plugin, pour certaines personnes, en fait, lisait tes informations sur ton disque dur et les envoyait sur un serveur distant. Et en fait, c'est très malin parce que tu mates un film, t'en as pour 2 heures, ton CPU y gratte, ton disque y gratte, tu t'inquiètes pas, c'est normal, t'es en train de mater un film.
Trop malin.
Donc en fait, ils shippaient cette version de VLC à des targets.
Ouais.
Ah,
et ça ressemble. C'est le même VLC. Il est signé Videolan. VLC, tu peux regarder tout.
Quoi, comment ils faisaient pour le signer?
C'est un VLC normal. C'est notre
mais
VLC.
Avec un plugin.
Avec une DLL supplémentaire.
C'est trop malin.
Mais comment ils l'ont installé sur une target?
Bah en fait, tu dis télécharger ça pour avoir le dernier codec pour le film machin. Les gens, ils téléchargent.
Ouais.
C'est trop smart. Alors, mais du coup,
alors,
qu'est-ce
je pense
que tu
que
peux
c'est
faire
pas
contre
très smart. Non, mais... je pense que niveau CIA, on est dans le niveau du hacking zéro. Ouais. Là, c'est non, stagiaire mais... CIA qui a lancé ça, quoi. C'est
comme
pas...
tu disais, c'est pas con parce qu'effectivement,
on est facilement impressionnable, d'accord.
Si ton CPU travaille un petit peu quand tu regardes un film, tu t'inquiètes pas et tout. En vrai, l'usage est malin.
C'est pas tellement la technique.
Et surtout, tu mates ton film 2 heures ou si t'as.
Ils ont 2 heures pour copier le match.
Si ta copine, t'as passé Twilight, t'en as pour 6 heures à regarder ce truc où tu t'emmerdes et en plus, tu te fais pirater.
C'est pas tellement sur la technique. En elle-même, mais ouais, plus sur le procédé de effectivement, comme c'est un plugin, t'as pas de problème de signature sur le binaire de VLC, plus tu chopes la personne au bon moment, enfin c'est trop, enfin très fort, voilà. Petit compliment à la CIA, gratuit. Oui, c'est vrai, ils sont probablement bien.
Et du coup, comment t'as fait? Et comment vous avez fait pour bloquer ça?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils réussissent à charger un PSAPI qui est en fait une DLL Windows, qui devrait être une non-DLL, donc en théorie, t'as pas le droit de la charger, mais la façon dont ils l'ont fait, en fait, t'avais le droit de la charger. Donc là, en fait, on a interdit le chargement de certaines DLL dans ce cas-là.
Est-ce que ça empêche totalement une utilisation détournée de VLC?
Non, mais là, ça veut dire que pour faire un truc comme ça, maintenant, il faut faire un plugin qui soit signé. Donc, c'est un petit peu plus
emmerdant, hein.
Un peu plus embêtant. Okay. Mais t'inquiète pas, si tu veux pirater.
Donc, t'as un stagiaire chez de la CIA qui a eu des problèmes à cause de toi.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, si tu veux quand t'as les pouvoirs de la CIA, tu peux pirater tout le monde. D'ailleurs, c'est pas, en fait, si jamais ton threat model, c'est-à-dire ton modèle de sécurité, c'est de te garantir contre un état, t'as perdu. Enfin, laisse tomber, quoi.
Ça va demander des financements assez élevés.
Allô, bonjour, Facebook? Oui, bah tout,
oui,
en fait.
Je peux voir l'intégralité, oui.
Tout.
Est-ce que tu garantis, tu avais dit ça, je crois, dans une interview.
Oh putain.
Est-ce que, monsieur, vous avez dit tel jour, à telle heure, à telle minute.
Non.
Tu avais dit que jamais tu n'utiliserais les données d'utilisateurs comme business model.
Oui.
Même via des formes anonymisées ou des choses comme ça.
C'est vrai.
est-ce que tu maintiens ça?
Je maintiens ça, ça s'appelle de l'espionnage. Et tu vois, par exemple, quand tout le monde...
Pourquoi? Quand c'est anonymisé, ça te pose un problème particulier?
C'est jamais anonymisé.
Mais ça m'intéresse énormément.
Ce n'est jamais anonymisé, tu peux revenir en arrière, c'est évident. Mais surtout, je vais te dire, tu vois, c'est quand tout le monde a flippé pour la RGPD, ils ont tous les cookies, etc. Nous, on est passé à la RGPD, j'ai rajouté une ligne sur le site web en disant, on est compatible RGPD.
C'est terminé, bonsoir.
Mais en fait, faites attention à vos données utilisateurs. Bon, c'est simple, j'en ai pas. Voilà. Donc, meilleure façon de pas avoir de problème avec tes données utilisateurs, c'est qu'on n'a pas. Le site web de vidéo LAN, donc tu as des adresses IP de connexion, en fait, les logs, en fait, ils sont trachés quasiment dans la semaine. Et ils sont trachés, ils sont pas conservés, etc. Il y a juste un comptage qui est donc un agrégat, mais c'est juste ce qu'il y a. Et voilà, il y a pas, t'as pas à te loguer pour lancer VLC, t'as pas à te loguer nulle part. Donc en fait, finalement, tu pourrais vouloir. J'ai pas de problème RGPD parce que j'ai pas de données.
Oui, ça peut risque pas arriver. Après, il peut y avoir des entreprises qui ont des bonnes raisons quand même d'avoir des données clients.
Ah ouais, qui?
Je sais pas moi.
Ah bah un compte
un compte, je sais pas
sur
moi.
Sur un shop en ligne.
Ouais, sur un shop en ligne. Ouais. Et t'as regardé combien de cookies et combien de merde de JavaScript ils ont?
Ah oui, non, mais
ils
c'est
ont 80.
Je parle pas de 98% de trash. Mais il peut y avoir des quelques
fait,
raisons
mais,
de.
Mais à ce moment-là, tu fais ça pour le besoin utilisateur. Mmh. En fait, c'est pas que je suis contre. Moi, mon but, c'est de rendre service aux utilisateurs. Et le tracking, c'est très très rarement au service de l'utilisateur. C'est souvent pour extraire le plus de valeur.
Mais alors, sur la question du financement, je continue après. Mais du coup, si tu fais pas ça, VLC n'est pas payant. On le rappelle, il y a pas de système d'abonnement, il y a pas une version premium de VLC. Comment VLC gagne de l'argent en fait?
VLC ne gagne pas d'argent. Facile.
Insane.
C'est tout. En fait, il y a des dons
et
sur le site web.
On parlait de bande passante, de serveurs, etc. Donc c'est les dons quoi.
Il y a des dons sur le site web, mais les attends.
Ça suffit. Ouais.
Les serveurs, on a acheté deux serveurs. Ils ont été partiellement sponsorisés par Gandhi. Ils sont hébergés gratuitement chez Free, free.org, qui est l'association en fait de bénévolat de Free qui nous hoste nos machines à besoin gratuitement. Et ensuite on doit louer 3 ou 4 serveurs à côté, notamment pour faire du build, et puis pour le CDN, donc là les serveurs pour justement la partie distribution qui coûte un peu cher, là on a juste deux pubs AdSense qui se bloquaient par 50% de nos utilisateurs, et on n'a jamais ça n'a jamais posé de problème.
Est-ce que c'est particulièrement parce que tu détestes l'argent? Ou est-ce que c'est parce que t'as pas trouvé de business model qui te convenait?
Je déteste pas l'argent, mais en fait, je trouve que les gens dont le but c'est de faire que de l'argent sont des cons et deviennent des cons. C'est-à-dire que de la même façon que je pense qu'il est pas possible de faire de la politique sans devenir corrompu, l'argent pour l'argent corrompt mentalement. Voilà. Donc ça c'est fondamental. Faire de l'argent en faisant un truc cool et qui te fait plaisir, j'ai aucun problème là-dessus. Mais il faut que ce soit globalement honnête, tu vois.
Et donc t'as pas réussi à faire ça sur VLC?
Il y avait des façons de faire. Moi j'étais trop jeune à l'époque. Ouais. Aujourd'hui l'argent sur des logiciels comme VLC, ça va être plutôt de l'argent qui va être fait sur du contenu, quoi. Tu vois, Netflix, bah c'est un VLC avec un FMPEG repackagé joli, mais surtout il y a tout le contenu et les gens payent pour le contenu. Les gens ils sub sur Twitch, sur OnlyFans, sur YouTube, ils payent pour du contenu. Payer le grand public payer pour vraiment de la tech, c'est très compliqué.
Et t'as pas des entreprises qui seraient intéressées pour une version modifiée de VLC ou je sais pas.
Tu ferais quoi en plus?
Parce que vous voyez, en fait, ça marche. Vous faites déjà tout, quoi. C'est le problème.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a quelques entreprises, par exemple, qui me payent moi ma boîte de consulting parce qu'ils ont des besoins pour améliorer VLC ou ils ont besoin notamment d'intégrer le moteur de VLC dans des applications. Plein d'applications vidéo. En fait, il y a un VLC, mais tu le sais pas. Voilà, donc ça, j'ai plein de cas comme ça, et ça, c'est comme ça que je vis. Je pense qu'il y avait plein de façons de faire pour vivre dans VLC. On l'a pas fait. C'est probablement, par exemple, il y avait de quoi faire un YouTube dans VLC. Moi, quand je suis arrivé à Central, il y avait un truc qui s'appelait Titus TV, et c'était un YouTube. Mais jamais les mecs, ils sont dit, oh là là, les coups de bande passante vont être trop gros, etc. Ils l'ont jamais lancé. Il y a des fonctionnalités de streaming live dans VLC depuis 2002-2003 et il faut attendre, tu vois, des Justin TV beaucoup plus tard.
Il y aurait eu un monde alternatif où
on regarde des vidéos sur VLC.
On serait actuellement là en live sur VLC.
Mais tu pourrais, il y a plein de choses sur le contenu. Moi, quand je commence à faire beaucoup de choses sur VLC en 2008-2009, en fait, je m'occupe, ce qui m'amuse à ce moment-là, vraiment beaucoup de la tech. Peut-être que j'aurais dû aller voir des mecs comme Boukobza, Jean-David Blanc ou des choses comme ça pour vraiment faire un vrai Netflix européen. Il y avait un vrai marché. Moi, le marché des ayants droit un peu me dégoûte parce que ce sont des gens qui sont sur un travail de rente, alors qu'il y a plein de gens qui font des vraies créations et qui sont pas les gens qui sont les plus payés. Donc voilà, moi j'ai jamais été capable de rentrer dans des gens du contenu. C'est un monde qui est pas le mien. Mais je suis pas contre faire de l'argent, vraiment, je suis pas contre. Par contre, je vais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon but c'est que le soir, je me couche en me disant je suis fier de moi, quoi. Je suis fier de ce que j'ai fait. Et si mon but c'est de juste d'enculer mes utilisateurs, je vais pas le faire. Facebook, tu vois, Zuckerberg, c'est vraiment, ce mec est une raclure. Tu peux essayer de le dire, mais non, c'est un génie. Non, c'est une raclure, tu vois. Et il a aucun respect pour ses utilisateurs. Bon, si les gens sont assez débiles pour le faire, tant pis pour eux.
Question pour un gars qui a passé, je sais pas, ça fait combien, quand est-ce que t'as rejoint VLC, mais ça fait quand même un moment que tu bosses sur des projets libres, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es pas dit, voilà, c'est bien marrant, je bosse comme un acharné, je fais des trucs vraiment cool, et quand même, il y a des gens à côté, tu vois, ils sont vachement mieux payés pour faire un dixième, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, le ProJB, défendeur du libre, il n'y a pas un moment où tu dis, en vrai, si je montais une petite start-up et que je me mettais
crois qu'il y a un moment, donc moi j'ai monté plusieurs, on a essayé plusieurs projets, plusieurs start-up qui ont plus ou moins marché, donc la plupart ont pas marché, comme des start-up. Je crois qu'à un moment, je me retrouve avec Ludo qui était avec moi au début de Videolabs et dans la boîte précédente qui s'appelait Fairplay Interactive, et je me retrouve avec Ludo et il y a une boîte qui s'appelle Color à l'époque, Colors, qui lève 25 millions et c'est 25 millions en 2010, quoi, donc c'est pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup 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 d'argent. Et c'était un truc, une application où tu prenais des photos et avec ton GPS ça te montrait les photos des gens à côté de toi pour les concerts et les stades, quoi. Et là, je dois avouer,
tu t'es dit, mais qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie?
Le monde des vicis est incroyable.
Et là, tu te dis, putain, merde, quoi. Alors là, t'es vraiment dans de la nullité technique. D'ailleurs, la boîte s'est crachée, il n'y a aucun usage, etc. Tu vois, aujourd'hui, il y a plein de startups qui se montent, la French Tech. Il y en a plein, je pense que la technique est pas intéressante, mais c'est des belles boîtes, quoi. Ils font des trucs sympas. Tu vois, on n'est pas sur le Uber des pierres tombales ou tu vois la farine connectée.
Ça avait donné un truc comme ça dans ma vidéo. Ça a beaucoup fait marrer les gens.
T'en as toujours des comme ça. Mais t'en as plein, tu vois. Par exemple, t'as plein de boîtes. Là, il y a Content Square, Pefi, Talan, Iban First. C'est des boîtes qui marchent bien. La tech, elle est pas intéressante pour moi, mais c'est super bien. Là, on était dans les trucs où vraiment, c'était la levée n'importe
quoi. Rien des pâquerettes,
ça servait à rien, ça coûtait cher. Et surtout, le plus ouf, c'est que moi, j'ai été expert technique. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis rentré dans Shadow. Expert technique pour des VC. Et j'adore faire ça, des due diligence techniques. C'est un kiff total. T'arrives, tu passes 24 heures ou 48 heures et tu démontes toute la boîte. Et techniquement. Et je me suis rendu compte, justement, qu'ils avaient investi dans des startups. Mais franchement, c'était du flan total. Il y avait rien.
Est-ce que tu as un exemple anonyme à nous partager?
Ou pas anonyme d'ailleurs.
Ou pas anonyme.
Juste faut pas faire diffamation.
Anonyme.
Alors ça ne te parlera pas parce que justement c'est un exemple qui est pas en France, donc je pense que ça ne te parle pas, mais c'était aux États-Unis et effectivement il leur avait vendu un truc de reconnaissance d'image et le truc en fait faisait de la reconnaissance d'image en utilisant Google grosso modo et c'était vendu. Ils avaient vendu ça pour.
Ils se pluguaient sur l'API de Google. Ouais.
De Google Images pour reconnaître des images. Etc.
Ah non, de Google Images.
Ouais. Enfin c'était une fraude totale et ils avaient levé à peu près 10 millions d'euros. Alors celle-là, j'ai été
incroyable.
Vraiment...
Comment t'annonces ça au mec qui a investi?
J'ai été poli.
C'est quoi la version polie, genre? Je pense que la vision long terme
de vos 10 millions d'euros est plutôt de pointer vers le néant.
pas du tout. J'aurais déplié en fait un truc en disant que ce qu'ils avaient fait pour le moment, c'était plus un proof of concept qu'une version alpha de l'app. c'est
pour bien mis les termes.
Et que ensuite, de façon à faire une vraie version alpha ou bêta, vu l'argent qu'ils venaient de lever, donc ils venaient de la lever, il fallait embaucher ça avec tant de personnes.
Oui, des vrais recos pour
la recommandation, c'était d'utiliser ça comme logiciel de base.
Ah, était trop méchant.
Ça va.
Et de faire comme ça, il y a un rapport s'ils ont suivi et la boîte a survécu et s'est fait racheter. Je crois 20 millions d'euros.
Donc OK. Bon,
20 millions de dollars pardon. Donc voilà, donc c'était pas
comme
c'était
quoi pas faites absolument n'importe quoi. Non, ça a marché pour ça. Hein.
Mais non, mais en fait, c'est le fake it till you make it quoi.
Ouais.
Le problème c'est que ça, il y a des choses qui pouvaient marcher il y a 5-6 ans qui marchent plus aujourd'hui. Le monde des startups, c'est plus le même. Hein. Aujourd'hui, il y a une compétition qui est un peu difficile.
Nouvelle question, beaucoup plus technique pour le coup.
Oh merde.
C'est quoi le H265 et est-ce que pourquoi ça met autant de temps à se démocratiser?
Alors, le H265, c'est un codec. Un codec, c'est un mot court pour dire compresseur, décompresseur. Quelque chose qui compresse les vidéos pour les transporter et de l'autre côté pour les afficher, tu les décompresses. Parce que une image normale, en fait, chaque image elle pèse 4 mégaoctets et donc comme tu en as 25 par image par seconde, tu aurais plusieurs gigaoctets par seconde et tu sais que ton DivX il fait 700 mégaoctets ou ton DVD il en fait 5 gigaoctets ou ton Blu-ray 50. Donc en fait, ça fait depuis maintenant 40 ans qu'on améliore la compression. Donc il y a eu le MPEG 1, le MPEG 2, le MPEG 4, le H264. Et à chaque fois, c'est des améliorations mathématiques qui sont plus en plus compliquées. Et le but, en fait, c'est d'améliorer la qualité avec une même bande passante. Donc tu définis en disant, bah voilà, j'ai 500, 700 mégas parce que j'ai un DVD. Et donc, qu'est-ce que je peux faire au maximum? En 2003 est sorti donc le H264, qui est donc le codec qui faisait un vrai gap. Tu vois, c'est comme quand tu passais de la VHS au DVD. Et qui marche super bien.
Et qui est un peu partout.
Encore maintenant.
Qui marche. Ouais. Ça doit être 80% des vidéos sur
là, Twitch. On est actuellement en H264.
Ouais, je pense.
Yo.
C'est pas sûr, en fait. Sur Twitch, t'as aussi du VP9. En particulier parce qu'ils ont acheté une boîte super sympa qui s'appelle NG Codec, qui fait des encodeurs VP9 temps réel. Et je crois qu'il y a que Twitch qui fait ça.
D'accord.
Mais,
donc ça, c'était H264.
H264. Et en fait, les mecs se sont t'es arrivé dans un business où en fait t'as eu des patent trolls et donc les mecs ont voulu toujours plus quoi, et à un moment ils ont commencé à demander des royalties même sur chaque stream, et donc tu vois par exemple pour YouTube les royalties pour utiliser H265 ça aurait pu être $1 milliard par an.
Ah oui.
Alors que par exemple les royalties sur le H264 elles étaient capées à 10 millions puis à 30 millions. Donc en fait les gars, ils sont tous gavés, ils ont fait absolument n'importe quoi, et surtout en fait c'est dans des trucs de standardisation où tout le monde arrive pour rajouter une feature au codec, mais le seul but de la feature c'est de rajouter un brevet. Et ensuite comme ça les mecs se
payent. Attends mais question con, je honnêtement j'avais jamais
con, il y a que des réponses.
J'avais jamais réalisé cette histoire forcément de enfin qu'il y avait des histoires de fils sur les codecs H264. Moi là, quand j'exporte une vidéo avec ce codec là, que je sais pas, moi je la diffuse d'une manière ou d'une autre, je dois payer quelqu'un.
Alors normalement plus maintenant, mais pendant très longtemps oui. Et en particulier parce qu'il y a des gens comme VLC qui ont un peu pété ce marché en disant les fees, je m'en fous. Et donc en fait, en théorie, si je payais tous les fees sur VLC, je devrais pour chaque VLC payer 100 €.
Mmh. Ah oui.
De fees, de royalties, de codec.
Juste parce que tu intègres la lecture
et l'encodage.
Et l'encodage.
Oui, de quasiment tous les formats.
Parce qu'en
gros, le HEVC, ouais. En fait, c'est vraiment mieux.
Alors, t'as dit HEVC, c'est la même chose.
H265.
C'est la même chose.
En fait, tous ces codecs ont deux noms. Parce qu'en fait, ils ont été faits à la fois, c'est des joint ventures entre l'ITU et le MPEG, qui est un format ISO. C'est deux formats de standardisation qui se battent. C'est vraiment imbattable.
Oui, moi, ça va. Je suis un peu.
En théorie, par exemple, ton H264, c'est du MP4 part 10-H264. Ou parfois qu'on appelle MP4/AVC. Donc en fait, quand le mec te parle de AVC, de MPEG 4 par 10, de MPEG 4 pour certains, ou de H264, c'est la même chose.
Restez avec nous, hein, ne faites pas de crise cardiaque, vous inquiétez pas.
Ça attends, c'était passer. La question technique, promis après, on
encore parler de bitrate.
Promis après, on arrête. Et donc en fait, le HEVC, donc le H265, c'est un nouveau codec qui est beaucoup mieux. L'effet waouh, ça améliore, tu vois, peut-être 25% par rapport à du H264.
Donc quand tu dis que ça améliore, c'est avec la même qualité d'image, voilà. Ça va prendre moins de bande passante.
25% de moins de bande passante. Ou tu le fais à l'inverse, c'est-à-dire que tu prends la même bande passante et tu regardes le niveau de détail.
Et pour les services de streaming, l'enjeu, il est énorme, quoi. Parce que les mecs,
on parlait de bande passante. Ah, voilà.
Et sur le HEVC, ils sont partis littéralement en H265, ils sont partis en vrille sur les FIS, et surtout, il y en avait tellement que tu devais payer à 4 personnes différentes. T'avais HEVC Advance, MPEG LA, etc. Et donc, c'était absolument délirant. C'est-à-dire que même si jamais tu voulais payer, tu ne savais pas à combien de personnes il fallait payer.
Comment tu te renseignes sur ça quand tu DL le truc et tu te
plugues... Toi, tu ne le fais pas, mais en fait, justement, c'est pour ça qu'il y a toute l'industrie.
Je préfère l'effort quand même.
Toute l'industrie, en fait, du broadcast, de la télévision, s'est occupée de ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que justement, Google, Facebook et d'autres sont partis sur d'autres formats, notamment le VP8. Et le VP9, qui sont des formats royalty free. Et ce qui a arrivé et qui aujourd'hui s'appelle l'AV1, qui est donc le codec qui va être pour la diffusion vidéo absolument partout.
Ah, j'avais une question sur ça. C'est quoi l'AV1?
Eh ben, l'AV1, c'est en fait VP10. C'est-à-dire que c'est
le
nouveau codec fait par l'alliance de Google, Facebook, Mozilla, principalement Cisco. Mais aussi des gens comme Videolan, c'est-à-dire nous, ouais, qui ont fait un nouveau codec qui s'appelle AV1. Et AV1, par exemple, c'est mieux que l'H265 et c'est royalty free.
J'ai une question qui m'a sauté aux yeux.
Vas-y.
Quelqu'un qui me demandait, est-ce que VLC ou Videolan ne s'est pas travesti en participant à un projet fait par des GAFAM?
Alors, en fait, ça te fait rigoler, mais c'est une assez bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, tu passes d'un monde vraiment merdique avec les MPEG LA, les industries vraiment des années 80, avec que des mecs blancs de 55 ans, avec des marges arrière, enfin vraiment le truc vraiment t'aimes
avec
pas.
Avec que
quoi.
Des mastodontes de la Silicon Valley.
Et tu te retrouves par des mastodontes de la Silicon Valley qui sont quand même pas détendres. Est-ce que tu pars pas d'un truc pourri à un autre truc pourri, quoi? Alors oui.
Voilà,
mais
c'est tout.
Mais c'est moins pourri. Okay. Sur ce sujet-là. Okay. C'est-à-dire que sur le sujet de la vidéo, avoir un codec qui soit royalty free, qui soit de bonne qualité,
équilibré
et open source, ouais. AV1, c'est bien.
Enfin, tu vois, c'est une bonne chose.
Et t'en profites. C'est vrai que eux, ils veulent faire parce qu'ils veulent faire plus d'argent avec YouTube et Twitch. Mais en tout cas, là, sur ce cas-là, ton intérêt s'est aligné.
Okay. Une question technique sur VLC.
Je t'en prie, c'est le moment.
Techniquement, j'ai jamais compris comment VLC faisait pour ne pas être une énorme usine à gaz avec toutes les features que ça a, même les features dont moins de gens se servent, genre le fait de convertir des fichiers, de machin truc, et toutes les possibilités de lecture que ça a. Pourquoi c'est pas lourd et lent et horrible à utiliser?
J'aimerais préciser un micro truc avant que tu répondes. C'est que c'est pas intuitif ce que tu viens de dire, le fait que VLC a plein de features et de fonctionnalités. Parce que je pense que pour n'importe qui connaît pas très bien la vidéo, il voit un player vidéo avec 4 boutons et se dit, oui, VLC est un produit simple,
ouais,
qui fait peu de choses. La réalité est tout autre.
Exactement. Et surtout...
Pourquoi? Explique-nous. Pourquoi ouais. VLC, c'est pas... pourquoi c'est pas aussi simple que ça?
Oui, parce que en fait, VLC, derrière son costume de logiciel facile, te permet de streamer de la vidéo, te permet de convertir des fichiers, de gérer des playlists...
Et même lire le nombre de formats existants. Et
ouais, voilà. Pourquoi c'est pas lourd?
Quasiment tout ce que tu fais avec OBS, tu peux le faire avec VLC. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, je sais pas s'il le fait, quand tu peux aller dans la partie qui s'appelle VLM, tu as un format de scripting, tu peux lire 3 caméras en même temps et faire du picture-in-picture, etc.
Ouais.
VLC, tu pourrais faire une UI OBS juste basée sur VLC, qui soit juste une UI différente.
Attends, tu peux faire de la régie avec VLC?
Bah évidemment. Et tu peux cracher sur l'URTMP sur YouTube.
Tu peux te poser sur la lune avec des mecs.
Comment? Quoi?
Ouais, voilà. Donc, en fait, il y a énormément. Donc, pour répondre à ta question, parce qu'en fait, on est des gros fachos de la qualité de code.
Ah.
C'est-à-dire que. Voilà la solution.
Va être clippé. Tu vois le clip sur Twitch, je sais.
Le clip, c'est le moment où tu isoles juste
un
bout.
De
juste pour faire une blague. Voilà.
En fait, ouais, on fait hyper attention à ce que le code qu'on met. Et surtout, on fait hyper attention à ce que le logiciel ne devienne pas trop lourd. Et donc, il y a beaucoup de refacto. Et le fait que quand tu cliques, ce soit très rapide, c'est qu'en fait, il y a plein de modules. Un VLC, il y a peut-être 400, 500 modules. Mmh. Et c'est juste à l'installation qu'on les charge tous. Mais toi, dans ton utilisation normale, tu vas en utiliser une cinquantaine. Et c'est d'ailleurs ce système qui a fait que la CIA s'est permis de rajouter un plugin supplémentaire. Mais donc, voilà, VLC, en fait, c'est assez petit pour ça.
Mais on est bien d'accord que si j'ai bien compris, ça a aussi bien fonctionné, c'est parce que à une époque, lire n'importe quel type de fichier, c'était pas du tout une évidence, quoi.
En particulier parce qu'il y avait plein de codecs PAC et les navigateurs, enfin et les systèmes d'exploitation arrivaient pas avec des codecs PAC différents parce que c'était hyper embêtant parce que il fallait payer des royalties. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand tu veux acheter le plugin H265 sur Windows te demande 1€.
Ah mais c'est vrai ça.
Ouais.
J'avais oublié cette anecdote.
Mais même aujourd'hui, c'est encore payant. Ouais. Ou même maintenant, tu peux plus lire des DVD avec Windows parce qu'il faut payer le codec MPEG-2, ils veulent pas le payer.
Sauf si t'installes VLC.
Sauf si t'installes VLC.
Mais si t'es pas au courant, tu mets le petit euro. Hein.
Non, moi, si t'es pas au courant, tu tapes dans Google, je veux pas payer le 1 euro et t'envoies sur VLC.
Et tu tombes sur VLC quand même.
Je me souviens même, avant, je sais pas exactement à quelle année commence VLC, mais.
Tu veux dire au moment où tu téléchargeais comme un Gorès sur Emil et sur Idonkey, c'est ça?
J'ai connu la période Idonkey 2000, Winamp et Real Player, tu vois. Donc vraiment, avec les skins Winamp et tout, enfin vraiment le truc.
Alors, est-ce que tu sais que par exemple, VLC supporte toutes les skins Winamp?
Quoi?
Bah oui.
Vous êtes parti trop loin.
Il y a un moteur.
Je vais revivre mon enfance.
Il y a un moteur. Il y a un moteur de skins dans VLC qui permet de skiner. Et en fait, tu peux charger n'importe quel skin Winamp. Bon, attends. Vas-y. Il y a 20 000 questions. Arrête.
Moi, je suis. J'ai décroché. C'est trop années. C'est quand ça?
Oh, c'est 2000, early 2000.
1988.
Je suis dans un berceau à ce moment-là. Est-ce que si tu pouvais implémenter une fonctionnalité instantanément, sans aucun impact sur VLC, tu choisirais quoi? Genre là, tu dis, et ça pose aucun souci, tu choisis une fonctionnalité.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Uber Eats.
J'avoue, ce serait drôle.
Franchement, au niveau feature, en fait, il faudrait qu'on soit capable de lire facilement les Blu-ray et c'est compliqué légalement.
Ah, c'est encore complexe?
Ouais, très légal. Enfin, techniquement, tu peux, mais légalement, c'est compliqué. Donc, si je pouvais, avec une baguette magique, je ferais ça. Mais non, sinon, je ferais un truc sur les sous-titres où tu peux cliquer sur les sous-titres et ça te donne la définition du mot. C'est vachement bien pour apprendre les langues.
Ah!
Et ça, là, moi, j'en ai pas le besoin, mais je sais qu'il y a plein de gens qui me le demandent.
C'est
et
pas
que,
con.
Et que techniquement, c'est très compliqué à coder. Donc, là, toi, j'ai la flemme, quoi. Plup.
Ok. Très bonne réponse. Ouais. Pour conclure la petite section, est-ce que tu te reste une petite question si tu en avais en stock?
J'en ai 1200.
Non, il a plus le droit de poser des questions. Il a interdit des questions. Non, tu arrêtes.
Excusez-moi, monsieur le chevalier.
Ça sera pour tout à l'heure.
Pardon.
On va mourir.
tu es autorisé, comme t'as, en plus t'as demandé sur Twitter, peut-être t'en as vu une en particulier.
Non, mais les grosses ont été posées. Il y en a aussi que ma communauté avait posées, qui sont retrouvées dans celles que t'as
parfait.
Dit.
Donc oui, on est allé piocher là-bas, hein, t'inquiète pas.
Ouais, bah voilà.
On a fait de l'outsourcing. non, je voulais quand même noter avant de conclure que il y a eu énormément de remerciements pour te remercier.
C'est vrai.
Et toute l'équipe, bien entendu, qui est derrière VLC. Parce que, tout simplement, c'est juste un projet insane. Un grand merci à lui et ses équipes pour le super travail sur VLC. Aussi pour la petite astuce qui permet de transférer rapidement des fichiers sur mon iPhone via le Wi-Fi.
Ah oui.
Je sais pas ce que c'est.
Comment il fait ça?
Bah en fait, maintenant c'est moins embêtant, mais pendant très longtemps.
Non.
Pendant très longtemps, en fait, quand tu voulais amener un fichier sur ton iPad, t'avais pas l'appli file. Ouais. Comment tu faisais? Puis Windows. En fait, on a mis un petit serveur web dans VLC.
C'est vrai.
Et donc, tu lances VLC, tu cliques sur la version
mais
iOS.
Qu'il n'y a pas dans VLC.
Et donc sur iOS. Et donc, ça lance un serveur web. Et toi, tu vas sur, il te donne l'adresse IP. Tu donnes l'adresse IP de ton iPad et tu drag and drop tous les fichiers en web. Et donc, ça charge. Tout est filmé exactement. Le Wi-Fi upload. Et c'est un truc hyper vieux. On l'a mis.
Il y a des trucs.
Et donc, en fait, c'était la seule façon sur iPad. Aujourd'hui, maintenant, t'as. Et encore, c'est encore un peu merdique, hein, sur iPad pour transférer
avec
les fichiers.
Windows et tout, c'est pas idéal, non.
Et donc
moi,
là, en fait.
Snapdrop.net, c'est un.
Ouais, on se sert de
ouais, il y a un AirMore, etc. Bah, ça marche pour VLC.
Incroyable.
Mais depuis très longtemps.
Il y a un puzzle aussi, hein. J'ai découvert ça. Tu nous as montré ça quand t'étais venu la dernière fois.
Ouais, ça, c'est le puzzle, c'est génial.
Oui, toutes les features sont utiles, hein, dans VLC.
Absolument.
Okay, je me permets juste, c'est quoi le use case de VLC le plus éclaté au sol que t'aies jamais vu? Genre quelqu'un qui fait un truc vraiment très bizarre avec VLC.
J'ai eu des gens qui utilisaient VLC pour ne... C'était pas pour regarder ni de la vidéo, ni de l'audio, mais c'était juste... Mais...
pour lire des livres, quoi.
Non, c'était en fait, c'était un fichier en fait de timing. Et en fait, ils utilisaient juste la barre en bas. Ils avaient besoin d'un truc. Et en fait, ils étaient dans un cas avec une machine auquel ils ne pouvaient pas toucher, mais ils avaient un VLC. Donc, ils avaient fait un fichier vidéo dans lequel il n'y a pas de track audio, pas de track vidéo. Et en fait, ils activaient l'interface web de VLC et ils faisaient des requêtes HTTP directement. C'était la seule façon qu'ils pouvaient contrôler la machine.
Pour avoir une barre de défilement. Quoi.
Pour avoir... Non, en fait,
ils avaient des timings.
Voilà, pour avoir des timings accurate sur un PC auquel ils ne pouvaient pas toucher, mais ils avaient un VLC et ils pouvaient recréer des vidéos.
Et c'est très étrange. Là, vous avez vu sous vos yeux ébahis la fonctionnalité de puzzle. Incroyable. Vous savez pas que ça existe. Vous pouvez faire des puzzles en regardant votre film.
Très
la vidéo
si
continue à tourner, franchement.
Films français.
Franchement, c'est insane. C'est seulement sur les films français. Y a une...
Ah ouais, quand tu t'emmerdes parce que c'est vraiment trop chiant et que c'est le.
Ils ont appelé la future Christian Clavier.
C'est ça. Alors, cette fois-ci, c'est Christian Clavier qui est cette fois-ci. Alors, est-ce qu'il est raciste ou misogyne ou etc. Génialiste.
Ah, tu sais, ouais, il y avait un générateur.
Ah, forcément, il y a un générateur.
C'était les questions de la communauté. J'espère, je sais que j'en ai sûrement raté plein. On pourrait vraiment continuer éternellement, mais voilà, j'espère qu'on t'a pas trop embêté.
Franchement, ça va. Les questions, elles étaient faciles, hein.
Cool. C'était quoi? C'est quoi la pire question que t'as reçue?
Je me suis retrouvé dans une interview avec des je crois que c'était des Vietnamiens, et ils ont commencé sur des questions mais hyper perso, mais genre hyper. Enfin, tu vois, j'étais. Alors j'ai répondu, mais c'est vrai que jamais un journaliste occidental aurait osé de poser des questions. C'était des trucs mais genre hyper perso, quoi. Bon, pourquoi pas.
Elle est dispo quelque part peut-être
en vietnamien.
Uniquement parle vietnamien.
J'ai jamais trouvé la vidéo, donc elle m'a dit qu'elle diffusait sur la télé, donc voilà.
Ok. Bon, ils ont pu découvrir des trucs croustillants. En troisième partie de cette émission, je vous propose un petit segment. Papier Denton, qu'on a sobrement appelé le vrai ou faux troll. On trouvera si on répète ce truc, on trouvera un vrai nom peut-être. Je vais vous donner des affirmations et vous allez devoir me dire si vous trouvez que c'est plutôt vrai ou plutôt faux. Ou vrai ou faux.
Mais on se bat après ou pas?
J'adore, on
fera un pay-per-view sur VLC incroyable.
Il y en a pour chacun d'entre vous, il n'y aura pas de jaloux.
Attends, on n'a pas un buzzer pour...
Non, il n'y a plus de budget, t'es sur Twitch, faut s'habituer.
Attends, t'as vu les caméras ici, tiens, c'est un studio professionnel.
Ouais, on fait semblant. ça a été lu en commentaire. JB, le mec pourrait être milliardaire à l'heure qu'il est.
Faux.
Vrai.
C'est faux.
Faut qu'on donne tous les deux?
Non, c'était
pas... Okay,
je dis d'abord. Mais tu penses pas que t'aurais pu l'être?
Non, clairement pas. Il me manque quelques... Enfin, j'ai trop de cases qui font que je suis passé en sociopathe pour ça.
Ah oui, non, mais genre, t'aurais pu, tu vois. Genre, modifiant...
Je pense pas.
Et, moralement ou pas, hein. C'est-à-dire fictionnel, tu vois.
Ouais. Non, je pense pas. J'aurais pu être à la tête d'une boîte qui fait des milliards, mais moi, milliardaire, je pense pas, non.
Ok. Hard disk, utiliser uniquement des outils libres, c'est super.
Non. Non, pas du tout.
Ah bon?
Mais non.
Je suis méga étonné de cette réponse.
C'est extrêmement étonné cette réponse. Non, pas du tout, bien sûr que non.
Tu veux dire que sans GIMP, ta vie n'a pas de sens?
Mais non, mais heureusement qu'on a GIMP. Mais mais juste, on aura d'autres discussions, je pense, sur les logiciels libres. Mais
t'as déjà essayé de trouver un équivalent d'After Effects en libre?
Il y a notre... c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué. Hein.
Mais,
et je crois que j'avais regardé un peu, mais je pense que ponctuellement, on check tous rapidement une équivalence, on se dit ah oui non. Ah là non, il y a rien. Là.
Le montage vidéo et les effets vidéo, probablement des
c'est
trucs
un peu
plus à la ramasse.
Il y a Scad en live, qui est le truc le plus.
Il y a Shotcut maintenant, qui commence à être pas mal, mais.
Allez, on vient de loin. Hein.
Quand t'as utilisé Adobe Premiere où chaque clic te donne un menu et chaque menu un sous-menu et chaque sous-menu un sous-menu.
Il y en a pour un moment pour implémenter.
Pour un bout de temps. Ouais.
Tu penses que c'est une question très vaste et complexe, mais est-ce que le libre et le propriétaire doivent coexister? Ou est-ce qu'un monde parfaitement où tous les logiciels seraient comme VLC sur un format libre et possible et souhaitable même?
Il n'est pas dit vrai ou faux?
Oui, mais alors là, je...
Oui,
je...
c'est vrai que oui. Je me suis posé la question, j'ai rien
total.
Dit.
Il nous arnaque total.
Je suis encore sur la question pour Hardisk Me. Ça,
ah, m'int...
ça m'intéresse de... Non, mais ça m'intéressait d'avoir son avis.
Tu le regardais, j'avais...
Non, non, mais je veux dire, comme je suis à ta question...
Écoute, concentre-toi.
C'est à ta question, ça m'a donné envie d'avoir ton avis là-dessus.
Je pense que ça cohabite. Je pense que surtout le vrai changement du logiciel libre, c'est la façon de développer. Et de toute façon, aujourd'hui, même Microsoft, Google, Facebook, etc. font du logiciel libre, ils n'ont pas le choix. Enfin, ils font de l'open source.
Ou alors ils en financent.
Oui, ils en financent. Je pense que, de toute façon, tu auras toujours des marchés de niche où en fait, tu n'as pas de business model sur le libre qui peuvent le soutenir. Et par exemple, l'exemple des tools de vidéo amateurs ou professionnels, c'est un marché de niche, c'est très compliqué de le faire en open source.
Ok. Pour une startup, l'open source est un super moyen de faire travailler gratuitement des développeurs sur son projet. Vrai ou faux ?
C'est vrai. C'est vrai. Et tu vois, par exemple, là, j'ai vu chez Shadow, il y a plein de fois, ils auraient mieux fait de regarder un peu plus ce qui se faisait en open source plutôt que de réinventer. Donc,
Tu vois qui c'est, Ben Awad ?
Ça me parle, ouais.
C'est un youtubeur qui est développeur. Alors, ce qui est ouf, c'est que sur le, entre guillemets, le marché YouTube anglophone, il y a un max d'audience intéressée par le dev. Que ça pourrait... Je pense que c'est peut-être un équivalent de Benjamin Code qu'on a mais anglophone et bien, bien, bien plus sarcastique. Mais il a fait une vidéo sur ça. Est-ce que vous devriez rendre votre startup open source ? Qui est vraiment à mourir de rire. Alors, et justement, lui, il nuance certains trucs, notamment sur c'est quoi comme expérience de gérer un projet open source. Et je pense qu'il a eu des bonnes désillusions qu'il explique sur le temps que ça prend et l'énergie que ça peut prendre aussi.
Mais je pense qu'il se rend pas compte ce que c'est de gérer un gros projet open source comme VLC. Parce que tu vois toujours des gens qui se plaignent un peu des projets open source, des gens qui leur parlent sur le pull request. Mais les mecs, ils ont aucune idée. Nous, on a un projet où c'est des end-users, des vrais end-users, pas des développeurs. Moi, j'ai reçu des menaces de mort, des lettres anonymes, j'ai reçu des lettres physiques avec de la farine à un moment de l'anthrax qui sont arrivées chez mes parents.
Parce que
les gens, mais si, mais ça me paraît tellement...
Qu'est-ce qu'ils voulaient, ces gens-là?
Mais j'en sais rien. Les premières menaces de mort, c'est quand on a droppé le support pour Power PC sur un Mac. Là. Mais c'est même... Mais donc tu vois, ça fait 4-5 ans, les gens ils font oh là là, c'est difficile de faire de l'open source, et ils montent des pull requests où il y a quelqu'un qui dit oh c'est de la merde ton soft. Mais j'ai dit les gars, mais vous êtes tellement des mignons quoi. Vous vous rendez pas compte.
C'est insane. Mais alors bah justement sur ce côté-là, est-ce que les startups se font pas un peu des idées sur l'open source en mode de, ça va être super génial, on va mettre l'open source, des gens vont venir travailler gratuitement, ils vont repartir.
En fait, et c'est parce qu'en fait
ça prend du temps aussi en fait, c'est pas forcément.
En fait c'est parce que la question c'est l'opposition est mauvaise. Ouais. L'open source doit te servir à te développer différemment. Donc, tu regardes, par exemple, si Shadow avait fait beaucoup plus d'open source ou avait mieux connu l'open source, ben, il y a beaucoup de features qui seraient arrivées bien plus tôt. Parce qu'ils n'ont pas cette habitude, cette culture. Donc, ça t'apporte, mais il faut pas que ça tue ton business, tu vois, par exemple.
Mais faut pas aussi penser que ça va être un gratuit, quoi. Parce qu'il faut des temps, des gens pour manager, etc.
Mais tu vois, par exemple, Hugging Face, qui est donc une des startups qui fait le plus de NLP, tout ce qu'ils font, c'est en fait, complètement open source, ça marche très bien. Il faut juste réfléchir. L'important de l'open source, c'est une façon différente d'aborder le développement logiciel et ce n'est pas forcément une fin en soi. Et les gens, en fait, font pas bien la dualité.
Ok. Hardisk, le libre, c'est les années 2000. 2020, c'est les startups.
Waouh, les yeux à ta question.
Je t'aimais bien.
J'ai envie de faire un petit coup de volant.
Ouais.
Et j'ai envie de dire oui, mais 2030, c'est potentiellement le libre.
Faux.
Attends, tu peux exposer un tout petit peu le truc?
Non, c'est pas ça, c'est que ta question, en fait, 2000, c'est le libre, mais 2010, c'est les startups. C'est pas 2020, les startups. Voilà. Vas-y.
Non, ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'on est un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui le ressentent, et c'est compliqué d'avoir. J'ai pas d'études, tu vois, mais ça m'intéresserait beaucoup d'en voir. Je pense qu'on arrive un peu au bout d'un modèle où plein de choses ensemble vont converger. Les soucis de privacy, closed open source, les nouvelles tech, qui les contrôle, comment, pour faire quoi. Et en fait, tous ces trucs-là, c'est en train de faire une gros gloubi-boulga dans une machine à laver de bordel, tu vois. Il va falloir qu'un truc en sorte.
Il y a un monde où en 2030
tout le monde est sur un pire tube fédéré. Quoi. Non, pas à ce point-là, mais
et c'est là où je suis complètement d'accord. Moi, je pense que la suite, c'est plus des logiciels open source, c'est des services open source.
Ouais.
C'est-à-dire que ce sont des services. Pourquoi pas un pire tube, mais pas forcément un peertube, mais tu vois, c'est un service web où toute la stack elle est expliquée, il te prouve et il te montre avec des façons de vérifier, des blockchains, de la communauté qui vient vérifier que ce qu'ils font tourner est bien respectueux de la vie privée et bien open source, mais la facilité, c'est quand même un truc centralisé avec un...
Sur
un,
le format un, signal, en fait, finalement.
Ouais, exactement. Donc, je pense qu'effectivement, la suite, c'est ça. C'est des services open source.
Alors, ma question, pour préciser, c'est... Tu aimerais que la suite, ce soit ça? Ou tu penses que c'est vraiment probable que
j'aimerais,
la suite, ce soit ça?
J'aimerais, et je pense que, justement, il y a quelques exemples, y compris, justement, bah, par exemple, Signal, mais il y en a d'autres, où je pense qu'évidemment, c'est le truc intéressant. Et en fait, tu te rends compte, à partir du moment où tu fais de l'argent, finalement, sur le contenu et plus sur la tech... Bah, tu te rends compte qu'en fait, ta tech, elle peut être gratuite.
Ouais, ok, c'est intéressant. Signal, ils gagnent, ils sont rentables? Ah, on a dit oui, là-bas. Comment ils font?
Ils sont pas rentables, mais quand tu regardes l'argent qu'ils lèvent, tu te dis que...
En fait, il y a une boîte derrière qui s'appelle Open Whispers ou LLC, qui fait du don, qui lève de l'argent, qui... Je sais pas ce que c'est leur vision du business dans 5 ans.
Ils ont essayé de lancer une crypto, je suis pas sûr que c'est une très bonne idée.
Ouais,
mais...
ils ont voulu faire du mobile coin.
Bon, ok. JB, VLC... Et détrônable.
Faux.
Confiant.
Aucun problème.
J'aime ça.
Confiance de chevalier.
En particulier parce que ça n'a aucun intérêt de venir détrôner VLC. C'est-à-dire que
pourquoi... ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas d'argent, quoi.
D'abord, il n'y a pas d'argent, on a éclaté le marché. Pourquoi tirer? Ouais, tu vas faire un autre player, il va faire quoi de plus? En vrai, la différence, ça va être sur le contenu. Tu vois, et le contenu, ça va être Plex, ça va être finalement Netflix, ça va être des agrégateurs de services de vidéo. Donc je pense qu'il y a un gros sujet là-dessus. Mais en fait, aujourd'hui, il y a trop de services, il va y avoir de plus en plus de services de vidéo, donc à un moment, tu vas avoir besoin d'avoir un méga player, un agrégateur. Mais un concurrent de VLC, ça n'a aucun intérêt. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais apporter de plus, quoi?
Harddisk, l'open source, c'est moche.
Oui. Au global,
total,
oui.
Faux.
Extrêmement vrai. Non, au global, avec de rares contre-exemples, il y a un énorme problème du UX dans l'open source. Et c'est d'ailleurs ce qui bloque son adoption en grande partie.
J'ai vu récemment, justement, ça m'a fait mal. Je l'ai mis parce que j'ai vu un de tes tweets sur OBS.
Ouais, on s'est battu. OBS a fait un changelog récemment. Ils ont pushé une grosse update avec plein de gros trucs techniques de ouf, de geek incroyable. Et ils ont dit, et les mecs, d'ailleurs, maintenant, on a mis en place le CTRL Z. On est en 2021, pour rappel.
Et ça, alors moi, ça m'a particulièrement touché.
C'était un exemple, tu vois, ouais. Où j'étais là, genre, mais les gars, putain,
moi,
c'est où, quoi.
Je t'ai répondu parce que vraiment, OBS, c'est mon chouchou.
Mais
de
j'adore
logiciel.
OBS. Et le problème, c'est que je me trouve dans la position du haineux qui est là, genre, mais c'est trop nul et tout, alors que moi aussi, j'aime bien. Et j'ai envie que d'autres gens trouvent que c'est bien. Et que ça soit utilisé par des gens moins geekos que
c'est
nous.
Pour ça, et pour que ça, tu veux du CTRL Z et des
pour
trucs
ça, mettez des putains de CTRL Z et le clic droit, il fait le clic droit et pas le clic gauche, tu vois. Stop! À un moment donné, avec ces conneries, quoi. C'est insupportable. C'est
toi qui as une vision un peu d'insider.
C'est malheureusement il a un peu raison. Ça change. Par exemple, dans ma petite vision, hein, c'est-à-dire que celle de VLC, si tu regardes par exemple la version mobile de VLC, donc Android et iOS, l'UI et l'UX c'est bien meilleur.
Ah, elle est pas mal.
Surtout,
hein.
Ouais. Super jolie. Et surtout le player qui arrive a été beaucoup plus pensé. Et c'est ce qui arrive sur la version PC dans la version 4 de VLC où en fait.
J'ai vu les screens, c'est incroyable.
Alors, il y a beaucoup de défauts et il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui, quand tu veux changer un sous-titre dans VLC, alors que donc si t'es en plein écran, ah non, ça c'est la vieille UI, c'est
mais VLC
pas...
4.0, gamin.
c'est pas très important, mais aujourd'hui, quand tu lances VLC, t'es en plein écran et que tu veux changer de sous-titre, tu vas faire un clic droit, aller sur sous-titre, faire un premier truc pour aller le deuxième, pour aller sur ton track. T'as été au minimum à 4 clics. Et si tu sais pas trop utiliser ton clic droit, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup de gens, tu double-cliques pour sortir ton plein écran. Tu vas à ton menu, tu cliques sur le menu sous-titre, tu vas au premier, on t'a la liste de sous-titres, t'as le track. Franchement, c'est cata, quoi. Jamais tu veux ça. En VLC 4.0, t'as un bouton qui s'appelle track, dans lequel t'as la liste des tracks audio, la liste des tracks vidéo, la liste des tracks de sous-titres. Et donc, en deux clics, normalement, tu changes ton audio et ton sous-titre. Ça, normalement, ça devrait être évident. Mais tu vois, bah, c'est du temps, c'est beaucoup de temps de développement.
On se demandait, parce qu'on avait reçu des graphistes il y a pas longtemps, est-ce que tu penses que c'est un déficit d'intérêt de la part de certaines populations qui savent bien gérer l'ergonomie, le design, etc.
Alors, il y a deux problèmes principaux. Donc, c'est toujours pas ça, la version 4.0. Je sais que cet article, mais il est complètement faux. Donc, je suis désolé.
C'est pas ta faute, Gabin.
C'est pas ta faute, mais...
Est-ce que tu peux juste dire où on peut voir des screenshots, du coup, officiels? Ça ira peut-être plus vite.
Ouais, je vais te trouver ça. Bon.
On vous trouve ça un jour.
Il y a deux problèmes. Ton premier problème, c'est que un designer, et c'est un problème qu'il y a aussi pour les startups, il a une idée, il a une vision et il n'en démord pas. Il sait, il a un process créatif. Et quand toi, tu lui dis, mais en fait, non, c'est pas ça que je veux, c'est très difficile de discuter avec des designers. Ils n'ont pas du tout cette approche collaborative. Et ils ont raison, parce que le design collaboratif, c'est catastrophique, ça fait des trucs très, très moches, quoi. Et ça, c'est le deuxième problème de l'open source, où justement, c'est collaboratif.
Catastrophique ou beaucoup plus difficile, parce que t'as quand même...
Non, mais lance Audacity, c'est catastrophique.
Ah oui,
tu peux
Audacity,
l'aider.
C'est moche, hein, putain.
C'est catastrophique. VLC, c'est facile, parce que la plupart des fonctions que tu veux, elles sont assez simples. Mais les fonctions
et puis surtout, VLC, une grande partie de VLC, c'est le contenu qui est au milieu. Donc ça règle aussi une partie du problème.
Mais, donc, les designers ont vraiment pas cette et normalement, l'idée de l'open source, c'est que t'arrives et tu améliores. Et ensuite, tu réaméliores. Ouais. Et en fait, le designer, il fait, non, mais moi, ce que j'ai fait, c'est une œuvre d'art. Et tu fais, mais non, mec, en fait, c'est pas juste une œuvre d'art.
Est-ce que c'est peut-être un effet de, juste de statistiques qui fait qu'il y en a trop peu à l'heure actuelle, donc c'est pas forcément les plus motivés ou les plus forts, et en fait s'il y avait un regain d'intérêt dans cette population là tu pourrais en avoir qui sont au contraire hyper chauds pour adopter cet esprit là d'équipe, etc.
C'est très compliqué, et je pense que par exemple le travail qui va pas mal changer, c'est, ça s'appelle Sketch et Figma. C'est tout con, mais Sketch et Figma, c'est la première fois où les designers doivent se poser des questions véritables
de collaboration.
De collaboration. Ouais. Et donc, je pense que ça va changer, notamment sur des plus jeunes. Alors, est-ce que
vous en avez parlé de Figma? C'est, je sais pas si t'as testé ce truc. Bon, je sais pas si tu fais. Alors, en fait, je retire ce que je viens de dire.
Il y a une phrase dans ce que t'essayes de dire.
On va
essayer de la chercher.
J'ai découvert que notre ami ici présent faisait ses vignettes sur After Effects.
Oui.
Je répète cette phrase, hein, si vous l'avez mal entendu. Il fait
ses
vignettes sur After Effects.
Toutes mes retouches photos sur After Effects.
Mais pourquoi ?
Parce que j'ai appris After Effects en 2011, que je connais ce logiciel mieux que ma mère, et que du coup...
Elle s'appelle comment ta maman ?
After Effects. et donc du coup, je vais très vite. Et donc, c'est très compliqué de faire autrement.
Je te charrie, bien entendu. Mais du coup, j'allais te demander si t'as essayé Figma, mais bien entendu, la réponse, c'est, je pensais non.
Mais After Effects.
T'as fait la même chose. Non, mais elle essayait parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien foutu. Surtout si vous voulez commencer à apprendre à mettre un pied dans le design, etc., c'est vraiment cool. Mais même sans être un développeur. Si vous pouvez faire à l'école, vous avez besoin de faire un petit visuel ou un truc comme ça. Si vous êtes étudiant, par exemple, c'est méga stylé. Tu nous dis si t'arrives à trouver.
Il se chie, hein,
c'est pas du tout, je l'ai pas sous la main. Bon,
dommage. On aurait eu en preview
un
preview
le build pour l'audience underscore.
En fait, ouais, tu peux, mais tu lances la dernière nightly build. C'est un peu difficile pour.
Ouais, le gabin est très compétent, mais peut-être pas encore à ce niveau-là de.
C'est l'énorme leak. Ça n'a aucun sens.
Un bordel, pas possible. Bon, oui, ça c'est les nightly builds, mais on va pas te faire un tuto en live pour l'installer.
Allez, tout le monde, on installe GCC.
C'est parti. C'est pas grave, t'inquiète pas.
On va
continuer.
En tout cas, voilà, justement, la version de VLC 4.0, justement, il y a un gros travail d'UI et d'UX qui est très long. Et on a travaillé avec une designer qui est absolument géniale.
Et ça a fonctionné parce que la partie design n'était pas collaborative, quoi.
La partie design, en fait, je l'ai faite avec deux personnes. Et c'est moi qui ai drivé. Ouais. Je savais où je voulais aller. J'ai fait du wireframe. Ça ressemble plus. Bah, si tu lances une vidéo.
Ah ouais, c'est beaucoup mieux.
Lance une vidéo, par exemple. Tu vois, en bas,
je pense que c'est un screen.
Non, je pense que c'est un screen. Ouais. Mais donc, en
clic.
Fait, tu vois, en fait, là, c'est ton organisation de ta bibliothèque. Qui est complètement optionnel, hein. Si les gens veulent pas avoir ça, en fait, ils double-cliquent classiquement, ils la voient pas. Mais tu vois, juste, ce que t'as en bas, bah, c'est le player que tu vois aussi en vidéo. Tu vois, t'as un bouton play au milieu avec des boutons logiques à gauche et à droite, quoi.
Ouais, t'as une unité.
Et t'as une unité, t'as une barre de progression, enfin, des choses, mais ça prend beaucoup de temps.
C'est quoi l'icône red à côté de vidéo et audio? On peut remettre le screenshot?
C'est le OnlyFans intégré.
C'est le OnlyFans intégré de
VLC. Ah oui, d'accord. Avec des photos uniquement de toi, du coup.
Tout à fait.
Avec des cônes.
Abonne-toi à mon OnlyFans.
Non, mais il y avait vidéo, audio, red.
Question beaucoup.
Tout en haut à droite, vidéo, musique, red.
Ah oui. Red avec un petit diamant ou
En fait, c'est, je pense que c'est une traduction, parce qu'en fait, t'as trois trucs, en fait, t'as quatre trucs, t'as vidéo.
Des images de qualité, hein, sur celle-là.
Et qui indexe la vidéo, donc, que t'as en local, mais aussi de ton NAS. Parce qu'en fait, mon problème, c'est que, pour indexer ton NAS, soit tu sors des énormes HTPC, Media Center, et c'est hyper long. Donc là, tu indexes ton NAS, tu indexes tes vidéos. Donc c'est vraiment deux univers différents. Et le troisième, en fait, c'est juste un browse où tu peux naviguer dans ton PC. Tu peux naviguer, en fait, et tu vois, quand ton lecteur DVD a un DVD, quand ta webcam, etc. Et le quatrième onglet que tu ne vois pas, c'est un onglet où tu peux aller regarder du contenu avec un système d'extension. Et chacun peut mettre ses extensions. Donc tu peux avoir un système de podcast ou pas un truc. Tu auras un onglet Peertube. Enfin, c'est mon but. Et tu vas cliquer, tu auras du Peertube. Mais ça, c'est des scripts Lua.
C'est hyper intéressant, ça.
C'est des scripts Lua. Et en fait, moi, je veux qu'on puisse amener du contenu. Alors, tu pourrais amener du contenu, ça sera peut-être des M3.8, des IPTV, des trucs de peer-to-peer. C'est pas mon problème. Le but, c'est de...
Tu pourrais avoir Popcorn Time dans VLC.
Tout à fait. En particulier,
L'intégration VLC X PeerTube et alors, autres systèmes centralisés.
Ça, c'est un truc que je... Tu vois, là, tu vois, t'as des podcasts, tu peux rajouter des...
Parce que vu la base utilisateur de VLC, ça peut régler un des gros problèmes de tous ces systèmes-là, qui est qu'il n'y a pas d'audience dessus, quoi.
Alors, en fait, surtout, ce que je comprends pas, c'est que tu vois, il y a un plugin BitTorrent dans VLC, enfin qui est pas dans VLC mais qui existe pour VLC, qui est pas développé par nous. Et en fait, ce truc, c'est tu mets n'importe quelle magnette, ça télécharge et ça marche trop bien. Et c'est littéralement inconnu. Je sais pas. Alors que tu vois.
Attends, c'est à dire que tu drag and drop un magnette ou.
Ah, tu copies dans la magnette, ouais. Tu fais CTRL-V dans VLC et hop, ça
le lit directement.
Ouais, à la Popcorn Time, et ça le trim directement. C'est absolument.
Attends,
génial.
Et du coup, il télécharge bien les parties au début en premier.
Ouais.
C'est trop. C'est génial. Ça c'est.
Bah ouais.
On peut faire du piratage facile avec VLC.
Mais tu vois, et donc nous on, jamais on le met en avant.
J'ai un bug de cerveau là.
Jamais nous on le mettrait en avant parce que en fait évidemment c'est quasiment que pour faire du piratage.
Oui.
Mais en fait il y a plein de choses dans la communauté auto VLC qui sont pas utilisées. Bon allez, on est où dans ton vrai ou faux parce qu'on va jamais s'en sortir.
J'ai une question plus compliquée ensuite, pas techniquement.
Putain, et heureusement que parce que là t'as fait des questions simples, ouais. On t'a embrouillé la tête. T'as déjà plus du viewer là, ils sont tous partis. Oh là là mon dieu. Et là t'as une question plus compliquée.
C'est un truc que j'ai vu passer. Je sais pas forcément dans quel sens il faut le prendre, mais une expression. La France est une colonie numérique. Est-ce que c'est vrai ou faux?
Ignorer.
C'est pour toi la question, non?
Non, c'est pour toi.
Je sais pas ce que ça veut dire.
Bon, non, si t'as jamais vu passer cette information, je pense que ça reflète le fait que en gros tous les utilisateurs français sont à l'heure actuelle d'un point de vue numérique, tu vois, sont uniquement utilisateurs de services étrangers. Et donc, de ce fait.
Ah, dans le sens colonisation. Oh, ah oui. Non, c'est pas vrai. Les Français sont quand même moins pires que nos voisins européens. Ils sont moins pires que les Anglais et sont moins pires que les Allemands là-dessus. En particulier, notre côté un peu relou, qui se plaint beaucoup en fait que il y a des vraies alternatives. Et je pense que justement, les alternatives des GAFAM, je pense que la France est mieux positionnée que les Allemands ou que les Anglais pour en faire sortir, parce qu'on a cette envie d'être des sales cons, des rebelles.
T'as de l'espoir sur le...
Ouais, j'ai assez d'espoir. D'ailleurs, envoyez-moi 100 millions d'euros, je vais vous faire des trucs cool pour aller concurrencer Google.
Il y a moyen que ce soit assez
ouais,
vrai.
C'est possible.
N'importe qui t'aurait dit ça, j'aurais fait la bonne blague.
Mais en vrai, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il faut le penser différemment, il faut le penser un peu lean.
Est-ce que quelqu'un a le 06 de Bruno Le Maire?
S'il vous plaît, pour un
écoute,
petit
Bruno, moment. Si tu me regardes...
Appelle-moi, j'arrête tout.
Je fais ce que tu veux. Tu me donnes du pognon, tu vas voir, on va faire des services numériques français super bien, respectueux de la vie privée et qui rapporteront de l'argent.
Incroyable, le message est passé. Les trois d'un coup, le triptyque. Hardisk, en réalité, tu es le développeur caché de RealPlayer et ton unique but est d'anéantir la concurrence de VLC.
J'ai longtemps essayé, c'est compliqué, les mecs ont des cônes, enfin on est quand même sur quelque chose de complexe, tu vois, de base.
Tu peux rappeler en vrai ce que c'est RealPlayer?
Non mais mec, genre je suis ingénieur,
je connaissais pas ce mot.
Non mais RealPlayer comme...
Tu connais pas RealPlayer?
Mais non mais...
Partez du principe que...
Il est né en 2010! Non mais enfin, attends, de quoi on parle? Il a 2 ans cet enfant!
Partez du principe que nous sommes beaucoup à... De pas avoir tout le vos
bon,
références.
Pour les enfants comme Micode, RealPlayer, c'est comme ça que papa et maman regardaient des films et des DivX piratés avant. C'était très lourd et très chiant. Et ça tournait sur Windows 98, no joke. Que quoi d'autre? C'était aussi le, non, le début avant Twitch, avant Justin TV. On regardait des web TV de gros nerds comme ça, en mettant des liens RTMP flingués.
RTSP.
Oui, exact. Où ça bufferait à fond parce que c'était hébergé chez le gars en question, sur sa connexion Wanadu de mes couilles, et ça marchait peu. Voilà.
Et c'était génial.
Et c'était, oui, on adorait.
Et
on adorait.
En résolution, c'était du 320 x 200, tu vois, ou du 200 x 320. Donc c'était, mais c'était vraiment le premier, et c'est eux qui ont inventé le streaming vidéo.
Alors, je vais dire un truc qui va pas forcément mettre tout le monde d'accord, mais elle est pas si mal en vrai, l'interface.
Non, aujourd'hui. Parce que, voilà. Et donc en fait, ça c'était les premières versions, et ensuite, ils ont foutu du contenu absolument partout, et c'est devenu une usine à
mais
gaz.
Si tu dis que ça, c'est Windows 98, franchement. Genre, ça va de ouf.
Étonnamment, à le revoir, ça passe.
Mais non, en fait, t'avais des boutons partout, ça cliquait partout, etc. En vrai, ça se mettait à jour non-stop.
Ouais, y avait des centaines de milliers.
Et en fait, ouais, à la fin, c'est devenu avec des trucs networks, du machin, et c'était absolument horrible. Et ils se sont fait éclater par un VLC, en fait.
En fait, c'était la version corporate de, t'avais Winamp, où t'avais en général un skin Avril Lavigne, tu vois, en énorme et tout. Et, il y avait la version commu et la version corporate.
Tu penses qui c'est Avril Lavigne?
Non, moi, je fais chez oui.
Attends, faut qu'on règle ça, excuse-moi.
Avril Lavigne.
Non, s'il vous plaît. Est-ce que, qui est Avril Lavigne, Micode?
Je sais pas.
Mais c'est pas possible, quoi! Mais, j'ai même pas 30 ans et j'en ai déjà 90!
Bah oui, t'es vieux.
Bon, à la petite mise au point pour les enfants parmi nous.
Oh,
ça
putain,
va, j'ai compris.
C'est compliqué, là.
Ah oui.
Bon.
Non, mais j'ai...
Vous êtes obligé de me... D'accord.
Quand même.
Ah ouais? Vraiment? Oui, bah.
Non. Ouais, bon. Moi, je chanterai pas parce que.
J'ai l'impression d'avoir 1000 ans!
Mais alors, tu as 1000 ans.
Écoute, moi je suis sûr que je sais des trucs que vous savez pas, ok?
Ah, ça, c'est sûr.
Ah non, mais non, c'est pas pour toi la honte. C'est...
Non, mais attends, laisse tomber. Là, j'ai eu un stagiaire. J'ai bugué quand je me suis rendu compte qu'en fait, il était né après 2001, quoi.
J'ai eu la même chose ici. On a eu quelqu'un qui est très jeune qui bosse ici. Et pareil, ouais. C'est tellement un événement marquant qu'il y a des gens qui n'ont pas connu du tout.
Bon, Avril Lavigne, avec Real Player. Vas-y, t'as d'autres questions?
Pour finir cette section, est-ce que tu vis vraiment avec 26 cônes de chantier chez toi et ta vie de famille est compliquée?
Alors, non. Chez moi, il y a...
Très déçu.
Peu de cônes.
Il y a un grand cône que d'ailleurs ma femme a volé à la DDE du côté de la Trinité-sur-Mer une soirée. C'est même pas une blague.
Si vous l'envoyez un courrier pour échapper.
Et sinon, j'ai des micro-cônes imprimés en 3D et des petits cônes collector Lego. D'ailleurs, j'en ai un dans mon sac pour toi, Micode, si tu veux. C'est collector, il y en a pas beaucoup. Et donc, on a fabriqué.
On le mettra dans
cônes.
Le décor.
Voilà. Et sinon, non, j'ai pas beaucoup de cônes.
Trop fort. Bon bah merci pour vos réponses, c'était méga intéressant. Je sais pas si ce format vous a plu, mais potentiellement on pourrait le refaire.
C'était hyper drôle.
T'aimes bien?
C'était hyper drôle.
Bah franchement, j'avais
l'impression d'être en déambulateur sur la fin, mais c'était hyper drôle.
On pourra remettre ça si jamais vous avez kiffé. Ah, la D2 vient de nous appeler apparemment.
Ah oui, la mairie de Thionville de récupérer ses cônes.
Je vous ai promis une histoire absolument insane. Dont monsieur a déjà parlé en live, vous pourrez aller voir sa vidéo sur YouTube s'il y en a une. Je te vole tes sujets, je suis désolé. En vrai, je savais pas, je te promets.
C'est pas grave.
Est-ce que le nom de Colonial Pipeline vous dit quelque chose? Enfin, toi, oui, du coup, mais.
Évidemment.
T'en as un? Non, en vrai, pour de vrai.
Ah, bah, évidemment, c'est le sujet de sécu des deux derniers mois.
Je sais pas si vous, dans le chat, vous l'avez vu passer, mais c'est une histoire rocambolesque avec des nouvelles actus vraiment tous les deux jours. C'est complètement dingue. Alors, pour vous expliquer, c'est une société qui exploite le plus grand oléoduc, donc le pipeline des États-Unis. Donc, c'est quand même 8800 kilomètres de pipeline et c'est responsable de 45% des livraisons et des carburants sur la côte est. Donc, on parle d'un truc totalement monstrueux sur lequel il ne faudrait pas qu'il y ait des petits incidents de sécurité au hasard.
Les problèmes.
Ce serait assez problématique, n'est-ce pas? Il s'est passé un truc le 6 mai dernier. Ils ont été victimes d'une cyberattaque par ransomware. Je pense que vous savez maintenant tout le monde ce que ça veut dire. Mais en gros, une bonne partie de leurs données ont été chiffrées par un programme malveillant. Donc c'est un truc qui a paralysé complètement l'entreprise. Et qu'il a même obligé à cesser ses activités. ce qui peut paraître dit comme ça problématique, mais voilà. Mais en fait, on parle quand même d'un truc qui alimente énormément, énormément, énormément de monde. Du coup, quelques jours, c'est genre une catastrophe. C'est extrêmement, extrêmement grave. Rien qu'en perte financière, on peut en parler. C'est vraiment vénère. Donc, le principe, c'est que ils ont un logiciel de facturation automatique qui édite des factures en fonction de la quantité d'essence qui est envoyée à un client, etc. Et ça, c'était capoute, quoi. Donc, dans un premier temps, il y a eu un vol de données. C'est-à-dire que c'est pas toujours le cas pour un ransomware. Normalement, pour une entreprise normale, t'as le ransomware qui arrive. Souvent, c'est même pas targeté précisément. C'est-à-dire que ils font des campagnes de phishing, etc. Et puis, il y a quelqu'un, il y a Micheline de la Conta qui télécharge le exe. Et puis, bim, ça fait un ransomware. Bah,
les partout. Bonnes macros dans Office.
Voilà, par exemple. Donc, il semble que ce soit plus targeté. Il y a vraiment un vol de données, qui est de données confidentielles dans un premier temps. Et dans un second temps, le chiffrement des machines de leur infra qui gérait le logiciel de facturation en question. Et rien que ça suffit en fait à mettre une boîte totalement à genoux, quoi. Donc il en faut pas grand-chose, tu pourrais dire que pour un pipeline géant.
Mais pas juste une boîte, la moitié de l'économie américaine, parce que les mecs ont commencé à flipper, quoi. Bah, en Caroline du Nord, ils ont organisé une pénurie parce que tout le monde a flippé, tout le monde est dans les stations de service. Et puis c'est même devenu un mème là sur 9gag et tout ça, parce qu'il y a des mecs qui y allaient avec des sacs plastiques pour prendre de l'essence, ils remplissaient leur coffre.
9gag, tu connais ça?
Moi, ça va.
Et franchement, c'est parti en vrille, quoi. C'est-à-dire que ce truc qui était déjà très grave pour plein de raisons, ouais. cyber
il y a eu un effet les gens d'emballement,
péter les plombs,
ouais, les mecs qui mettaient de l'essence dans leur poche, ouais, c'était des malades, quoi, tu vois,
c'était génial.
Après, ils sont américains, tu vois, mais bon, quand même.
On sait maintenant d'où ça vient. On sait que, enfin, on a su en fait assez rapidement que c'était le groupe Darkside. Non, extrêmement stylé de Haku, n'est-ce pas, qui était donc à l'origine de cette attaque. Donc c'est un groupe cybercriminel qui est assez récent, mais en fait bon, potentiellement ils changent de nom régulièrement. Donc, mais ils se sont fait connaître principalement en août 2020. Donc c'est on n'est pas sur un truc petit. C'est un groupe qui est vraiment de professionnels, quoi, organisé, des millions estimés de profits, 90 millions à peu près estimés. Encore une fois, on sait avec les infos qu'on a. Ah,
en fait, c'est pas Bruno Le Maire qu'il faut que j'aille demander.
Changement de plan.
Sur Bruno Le Maire.
Attends, ils ont 90 millions.
Hein. Gros,
90 millions disponibles. Et a priori, basé en Russie. Alors, sur ça, il faut toujours mettre des grosses pincettes.
C'est pas un délire en ce moment, tous les hackers sont russes. Si tu lis les journaux et
en
tout.
En fait, c'est-à-dire que c'est évidemment sur des fondements de vérité, mais aussi tu t'es cybercriminel, tu te lances dans la cybercriminalité, voilà, tu glisses des petits caractères cyrilliques par-ci par-là, c'est comme ça, voilà, ça brouille les pistes. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours mettre 15 milliards de guillemets quand on fait de l'attribution, et voilà. Mais bon, a priori ça pourrait être des Russes, et qui ont un modèle économique qui est méga intéressant et je pense qui est pas si connu que ça. C'est le RAAS, le Ransomware as a Service.
Ah oui, exact.
Vous connaissez peut-être Product as a Service, Software as a Service, bref, et autres. Et là, c'est le Ransomware as a Service. Donc, en fait, eux, ils ont, leur rôle, c'est de coder le ransomware. Donc, c'est eux, les ingénieurs, qui font la R&D du malware, quoi. Ils communiquent, donc là en leur nom, etc. C'est eux qui sont les éditeurs du programme.
C'est Ubisoft.
Ouais, mais du ransomware, voilà. Et c'est eux qui négocient les rançons avec les victimes. Eux, ils font ça. Mais c'est pas eux qui vont aller répandre le virus. T'as d'autres gens qui sont, en fait, ce qu'on appelle les affiliés, qui sont eux chargés de... qui sont recrutés donc sur des forums spécialisés qu'on peut connaître du darknet comme on veut dire les gens, mais aussi potentiellement sur des forums de sécu, etc., de partout, enfin, voilà, sur des channels Telegram, bref. Et ensuite eux, ils vont être chargés de diffuser le ransomware. C'est-à-dire que vraiment t'as une séparation des tâches entre les créateurs et leurs sbires qui vont être chargés de se balader.
C'est le YouTube partner programme, quoi.
C'est vraiment
c'est
ça.
C'est l'affiliation,
mais du ransomware, c'est de l'affiliation. Et donc c'est à eux de se démerder pour le comment, en fait. Donc si ça peut être du phishing, de l'achat d'identifiants,
ou du virus
à l'appel, ou du virus qui va installer le ransomware.
Ouais, c'est ça. C'est que maintenant t'as beaucoup de virus qui sont en fait des vers qui vont installer des ransomware. Et le mec qui a fait le virus et le mec qui a fait le ransomware, c'est pas le même.
Ouais. Et donc potentiellement ça peut être un réseau qu'ils ont déjà. Les gars, ils ont un botnet ou un truc comme ça.
Et du coup, ben, ils se font des voitures, ils se font des arrangements, quoi.
Ils prennent un cut sur les éthers à la fin. C'est trop bien.
Franchement, c'est vraiment l'économie cybercriminelle et je trouve vraiment passionnant.
C'est complètement dépassé par
Attends, tu vas trop vite.
Tu vas voir la suite.
Le test, c'est des relents.
T'es incroyable, mais attends. Donc, ils peuvent bosser pour plusieurs groupes de cybercriminels, tu vois. Ils sont employables, tu vois, à qui voudra. Et en contrepartie, c'est ce que t'expliquais, ils vont prendre une portion de la rançon. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on disait, c'est l'équivalent de, c'est des livreurs de ransomware, tu vois. C'est livreur Uber Eats, mais tu ransomware. C'est moderne. Et donc, pour revenir à l'attaque sur le pipeline, c'est là que ça devient marrant parce que, donc, DarkSid, le groupe, c'est un peu désolidarisé de l'attaque. Et donc, ils ont pris un petit peu leur distance en expliquant que, oui, mais donc, eux, ils ont édité le virus, mais qu'ils cautionnent pas forcément parce que ça met la moitié des États-Unis.
Ah ouais, ils vont pas la jouer, les mecs. C'est pas moi, j'étais pas là.
Donc là, ouais, on a la traduction. Notre objectif n'est pas de faire de l'argent, mais de créer. De créer des problèmes pour la société. J'ai dit l'inverse, non?
Ouais, c'est ça.
Notre objectif est de faire de l'argent, pas de créer des problèmes pour la société. Un sacré culot, quand même. Et à partir d'aujourd'hui, nous introduisons une modération et une vérification de chaque entreprise que nos partenaires veulent chiffrer dans le but d'éviter des conséquences sociales dans le futur.
Mais en fait, surtout, c'est
ça me fume à chaque fois.
C'est des méga pros. Parce qu'en fait, quand tu vas les voir, ils te donnent une adresse, tu communiques avec eux et ils te prouvent, tu vois, ils coupent un doigt, ils t'envoient un doigt. C'est-à-dire que c'est vraiment vraiment un truc de rançon. C'est-à-dire qu'ils t'envoient quelques fichiers. Ils t'envoient quelques fichiers de ton SI pour te prouver qu'ils ont bien la clé de déchiffrement, eux. Et il y a du support.
Il y a un service client.
Et si pendant 6 mois, si t'as des problèmes de chiffrement, etc.,
ils assurent le suivi.
C'est des méga pros. Mais ça ne marche principalement que parce que c'est trop petit pour que les États fassent chier. Et donc, c'est pour ça que, en fait, eux, ils sont furieux, parce que, là, c'est du pipeau, mais en fait, ce qu'ils veulent dire. Exactement. Et donc, ils se prennent NSA, FBI et la puissance des États-Unis, et ils vont se faire fumer, ils vont se faire tracer les bitcoins, etc. Donc, absolument furieux, parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils sont morts. Parce que un de leurs affiliés a voulu jouer trop gros, et a s'est dit, attends, ton missile sol-sol, je vais l'envoyer, à une armée irrégulière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait, ils sont dans les projecteurs, ils se font fumer, et leurs botnets, ils sont tous cramés, il faut les reconstruire. C'est deux
tu
ans de travail.
Tu penses qu'on va les retrouver, ces mecs-là?
Oh, bah, y en a qui se sont fait arrêter, hein. Ça, c'est évident.
Déjà?
Oh, bah ouais.
C'est ça qui a mourir de rire, en fait, c'est que comme eux, ils ont une politique de low profile, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont tout intérêt à pouvoir continuer à faire leur business le plus longtemps possible. Donc là, en fait, c'était pas prévu parce que c'était un acteur tellement important de l'industrie, quoi.
Et tu vois, ça, c'est un truc en infosec que je comprends pas. C'est que avec des paiements en crypto-monnaie et avec tout ce que t'as de réseau Tor, de machin, comment tu remontes ces mecs?
Attends, en crypto, tu peux remonter.
Ouais, j'en parlais un peu avec Asher, mais c'est quand même pas, enfin, c'est pas un IBAN, tu vois. Genre,
on arrive au dénouement.
On arrive au dénouement
juridique, justement. Je voulais juste préciser quand même que là, on a dit, oui, ils se sont désolidarisés, mais ils auraient très bien pu fournir la clé de déchiffrement, si vraiment se sentaient d'une grande âme. Et voilà. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas du tout effacé leur attaque.
On aime bien la thune quand même.
Ils ont quand même entamé une petite négociation de quelques millions qui ont été payés. Donc la société en question.
Les frais de déplacement.
Exactement.
Quoi.
Je crois que c'était 4,4 millions d'euros en Bitcoin.
Franchement, c'est très cher.
Qui ont été payés
pour le genre de boîte que c'est.
Alors justement, c'est ça, c'est qu'en fait, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, quand tu compares aux quelques jours nécessaires, enfin aux quelques jours de non-activité.
Oui, ça combien coûte 24 heures inactives.
Et en fait, c'est méga rentable.
4 millions de dollars, même la, c'est plus, enfin, même l'heure, ouais. Avec ouais. Le rapport.
Et ce qui est une anecdote rigolote, c'est qu'avec la chute du Bitcoin, aujourd'hui, ça correspond plus qu'à 3 millions. Du coup, les mecs, ils ont payé genre 1 million.
Tout est nul
non,
de A à Z.
Non, parce qu'ils sont sortis tout de suite. Normalement, tu sors tout de suite.
Ça se trouve, ils sont allés sur Coinbase.
Non, je parle de la société. Je parle de la société qui s'est fait pirater. Si ça s'était passé 3 semaines plus tard, ils auraient fait 1,5 million d'économies. Mais bon.
Je pense que c'est par rapport aux 10 milliards qu'ils ont perdu dans l'opération.
Oui, oui, c'est clair. Mais je trouve l'anecdote rigolote. Et le PDG, donc, qui s'appelle Joseph Blount,
a dit « J'admets que je n'étais pas à l'aise avec le fait de voir de l'argent s'évaporer et aller vers de telles personnes, mais c'était la bonne chose à faire pour le pays. » Quand même une position qui se comprend, mais qui est dure à avaler quand même, moi je pense.
Attends, mais c'est le business de la rançon, que ce soit pour des gens qui se font enlever en Afrique subsaharienne, etc., c'est pas de tuer les gens, hein, c'est de récupérer du pognon. Donc il faut, c'est pour ça que c'est des trucs de pro, quoi. Normalement, c'est, après, t'en as toujours un ou deux fous, mais la plupart des histoires de rançon pour les humains, c'est assez professionnel. Ouais. Il faut que les gens payent. Et si c'est trop cher, bah, en fait, on abandonne le mec. Donc il faut trouver, enfin, tu vois, il y a un marché.
C'est à mourir de rire, c'est que.
Enfin, c'est rigolo, mais c'est hyper triste. Mais, oui. mais
c'est
mais
de l'humour jaune.
Et là, c'est la même chose, tu vois. Mais si tu veux qu'on fasse une boîte où on peut gagner beaucoup d'argent, c'est on fait de la réponse sur incident de ransomware. Parce que en fait, des boîtes comme ça qui se font, parce que des PME en Allemagne et aux États-Unis qui doivent se faire en France, qui se prennent des ransomware, il y en a 10 par jour. Il y a pas beaucoup de vraies startups de sécurité qui sont capables d'arriver avec
le suivi.
Tu vois la AMSUT, le pompier, tu vois, t'arrives avec tout le truc, etc. Et en fait,
mais tu peux encore faire quelque chose une fois que t'es loqué.
Mais en fait, il y en a plein. Déjà, tu peux. Il y a plein de ransomware. En fait, il existe des solutions, quoi. Il y a des sites web où t'as à peu près 400 trucs de déchiffrement.
Est-ce que vous pouvez m'aider? Mais il y avait un site qui répertoriait un petit peu justement toutes les solutions possibles.
Il y en a plein, ouais. Il y a plusieurs des sites comme ça.
J'ai oublié comment ils s'appelaient. Si quelqu'un le retrouve.
Mais surtout, la base, c'est tout de suite, tu dis aux gens, éteignez les ordinateurs, débranchez le réseau. Ils n'ont pas cette habitude. Tu vois, il faut que
Oui, coupez tout immédiatement. Isoler.
Ils disent, oh, bah, de toute façon, c'est pas grave.
C'est nomoreransom.org,
ouais,
je crois.
Oui, il y a un truc comme ça.
Merci beaucoup. Mais ouais, effectivement, il répertorie un petit peu tous les algorithmes, etc., qui sont fait casser, parce que le fait est que parfois les développeurs de malware sont pas forcément les plus chauds en cryptographie.
Bah si, mais en fait, c'est très compliqué de faire de la bonne crypto, hein, tu sais.
Du coup, parfois ils se font.
Mais je pense qu'il y a plus d'argent à faire en faisant de l'anti-ransomware qu'en faisant des ransomware.
En faisant des ransomware, c'est honnêtement pas impossible. Du coup, ils ont payé et de toute façon, ils étaient assurés, je crois, à hauteur de 15 millions. Donc, c'était worth. Même si ça leur a pris du temps parce que, apparemment, le logiciel fourni de déchiffrement, parce que, bien sûr, donc, on expliquait, il y a un support client, etc. Et ils fournissent un logiciel de déchiffrement pour récupérer les données. Apparemment, il était méga lent et du coup, ça leur a quand même pris une bonne semaine. Donc voilà. Mais j'étais aussi assez étonné de voir j'avais vu des screens sur Twitter de discussions, de voir un petit peu les backstage, comment ça se passe quand tu négocies avec un mec qui vient de te prendre t'es donné en otage, tu vois. T'as un peu cet aspect Hollywood où en fait tu vas parler à un détraqué.
Tu veux pas faire une émission de sécurité informatique la prochaine fois? On te fait venir des hackers avec des casques
avec des capuches
et des capuches et ils parlent.
On fait ça. On a eu un. Bon, il avait pas de capuche, mais
c'était pas un vrai hacker.
Ouais, c'est clair. Mais ouais, j'étais assez.
T'as regardé Mister Robot? Bah voilà, ils sont comme ça. Hein.
Ils sont comme ça. et donc c'était incroyable de voir à quoi ressemble une discussion, tu vois,
La question qui est embêtante, c'est pas celle-là. C'est comment ces espèces de crétins de Colonial Pipeline avaient leur système branché en fait sur Internet, tu vois, ou pourquoi ils ont cliqué sur ce putain de .exe, quoi, ou pourquoi leurs ordinateurs n'étaient pas à jour. Parce qu'en fait, c'est quand même ça, c'est quand même, parce que le fond de l'affaire, c'est à chaque fois c'est des erreurs humaines, tu vois.
Pas de backup offline, pas de.
Ouais, ouais, c'est tu vois, la sécurité informatique, elle passe par l'humain. Et voilà. Et quand t'as des infrastructures, genre une centrale nucléaire, etc., tu la connectes pas à Internet, quoi.
C'est vrai que c'était
pour
pas
ça,
forcément.
Il y a le compte Twitter Swift on Security, qui est, écoutez-moi bien, extrêmement drôle.
Mais ça a changé, c'est
et
plus comme avant.
Qui explique bien ces trucs-là.
Le problème, c'est que il ou elle spamme beaucoup quand même. Hein. Tu t'abonnes.
Non, mais j'adore ce compte.
Ouais, mais d'accord, mais t'as plus que ça dans ta timeline, quoi.
À l'origine, c'était un compte qui était censé.
C'est 100% shitpost sur la Sécu Info.
Et surtout, il y avait un concept à la base. C'était censé être Taylor Swift qui parlait de cybersécurité. C'est ça qui était drôle.
En fait, elle joue le rôle de Taylor Swift.
Exactement.
Qui parle de cybersécu, ouais.
Bon, il y a moins ce côté-là, mais ça reste très marrant. Si ça vous intéresse, ouais. Vous me demandez.
Elle a un site d'ailleurs, decentsecurity.com, qui donne de super conseils assez simples. Ah, c'est un bon guide pour sécuriser une machine Windows.
Okay,
de A à Z, si tu connais rien.
Ok.
C'est un très bon site.
Pas.
Et on sait si c'est une femme ou un homme ou pas.
On sait
pas.
Je crois qu'elle dit que c'est une femme. A priori, ça, c'est à peu près sûr.
Ok. Bon.
Après, ouais.
Pour conclure sur cette histoire, effectivement, c'est ce que tu disais.
Tu vas te mettre au piratage.
on change de business model chez Micode. non, mais c'est remonté très très haut, quoi. C'est ça le truc, c'est que t'as Joe Biden qui est monté au pilori, FBI qui a mis les mains dedans, etc. Crise diplomatique même entre les États-Unis et la Russie, parce que on pense donc a priori que le groupe serait basé en Russie.
Mais
et il y a cette histoire là aussi que les groupes cybercriminels russes ont un peu ce pacte non officiel où ils attaquent pas des cibles russes et du coup potentiellement on les laisse un peu faire. Tout ça est bien entendu à prouver, etc. Mais bon. C'est pas des trucs
la dernière grosse attaque qui avait parti dans les journaux, c'était l'histoire de Sony avec les Nord-Coréens. Mmh. Tu sais, où ils ont sorti, qu'est-ce qu'ils sont sortis? Ils ont sorti des films en avance ou.
Des emails, ce qui est très embarrassant.
Avec des trucs, etc. Et c'était soi-disant les Nord-Coréens. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est Nord-Coréens? Franchement, c'était vraiment très bizarre tout ce truc.
C'est Obama qui avait fait une déclaration, genre la Corée du Nord, machin.
Ouais.
Truc,
ouais. Alors que tu vois, enfin, moi, je suis chinois, je fais genre, je passe par la Corée du Nord, quoi. Enfin, tu vois, c'est.
Oui, évident. Mais c'est ça, c'est que t'as des cibles, entre guillemets, faciles où on n'a pas envie de se fâcher avec tout le monde. Il y en a certains avec qui c'est plus simple que d'autres, ou plus arrangeant.
J'imagine trop les gamins qui ont fait ce hack-là. C'est, ils ont genre un écran sur DDoS 2, l'autre écran sur CNN. Ils sont en train de voir la merde absolue, tu vois. Horrible.
C'est ça, c'est qu'en fait, c'est totalement impossible que derrière des groupes de ce genre-là, qui ont peut-être des cibles plus petites habituellement, en fait,
les mecs qui ont 21 ans,
ça
ils sont à Epitech russe.
Je pense qu'Epitech russe, ça doit être bien, bien, bien chaud quand même.
Quoi, tu fais des pompes le matin et tout, genre c'est quoi le
Non, je pense que le niveau doit être
ouais,
bien.
Ouais, un niveau pas trop dégueu. Donc la dernière news qui est tombée il y a pas du tout longtemps, c'est que ils ont annoncé, alors c'est ce qu'ils ont dit, hein, à prendre avec des pincettes, que leur infrastructure avait été démantelée et que l'argent de leur portefeuille, donc de crypto-monnaie, a été transféré vers un portefeuille inconnu. Mystère. Bon, alors, le truc, c'est que... Il y a deux possibilités. Soit...
J'y crois moyen.
C'est vrai. Attendez.
C'est pas vrai.
Soit c'est vrai. Et les autorités ont été quand même rudement efficaces. Ah, très, très rapide. C'est pas forcément impossible. Ça s'est déjà vu dans d'autres piratages, etc., où ils ont été très, très faces, notamment Emotnet. Si vous avez entendu parler de ça. Ou alors, je vous voyais rigoler depuis tout à l'heure, c'est faux, et c'est ce qu'on appelle un exit scam. Donc, le principe, c'est de dire que soit on a été piraté, soit on a été saisi par la justice, etc. Et que, là, il y avait les propos de Biden qui tombaient particulièrement bien, et donc, en fait, ils en profitent pour disparaître avec la thune, ne pas payer leurs affiliés, et ciao, bye, il n'y a plus personne, quoi.
Bah, c'est comme il y a deux ou trois mois là un exchange de Dogecoin qui est parti avec 2 milliards ou
pouf ah il y a plus merde putain le piratage
oh non quel dommage non.
Bah, c'est un truc qui est assez fréquent sur les marketplaces notamment de
ouais, moi,
sur le marché noir
moi je crois aux deux en fait, c'est-à-dire que les mecs ils sont barrés très très vite, ils ont laissé un tout petit peu sur un endroit, ils se sont fait raider, enfin ils savaient que les mecs allaient arriver, ils ont laissé le FBI récupérer 500 bitcoins pour faire genre attention on est sérieux, et ils sont partis avec 20 000 bitcoins.
Ah tu penses qu'ils vont...
Bah, en fait c'est évident, en fait ils savent que ça arrive, ils savent qu'ils vont se faire pogner, ils sortent tous, ils font plein de rebonds à travers 3 shitcoins, un Monero et re-bitcoin sur un exchange à côté. Ils shut down leur botnet parce que de toute façon il est mort, ils vont se faire toutes leurs IP sont cramées donc ça sert à rien, ils repartent de l'autre côté. Et en plus ils laissent, enfin ils nettoient pas plus que ça. L'FBI dit oh regardez, toi c'est comme une histoire de trafic de drogue où
c'est incroyable
où les mecs arrivent et te disent oh regardez on a fait une saisie record de 500 grammes ou de 500 kilos d'héroïne et en fait tu vois le camion en fond,
t'as la caméra qui tilte.
Ça permet au FBI de faire les cakes et du coup de dire
on est trop fort en 48 heures. Donc voilà, tu vois, moi c'est plutôt je pense plutôt un peu les deux.
Tu penses à un entre deux. OK,
c'est le meilleur scénario.
C'est une théorie.
Tu vois, c'est que t'arrives, bon OK, d'accord. Alors FBI est très très fort, comme ça ils sont tous congratulés, ils ont tous leur petite médaille, Biden il est content, il etc. Il a fait avancer ses trois pions diplomatiques qui avaient rien à voir mais il voulait taper sur la Russie.
Du coup il a mis une base militaire quand même.
La chaîne de commandement est content. Ils ont laissé un peu de pognon comme ça ils disent enfin tu vois voilà, ils ont donné un tout petit peu comme ça ils arnaquent leurs affiliates, de toute façon on s'en fout des affiliates et ils partent et peut-être tu vois même s'ils partent avec 60% de leur bulletin,
c'est déjà insane.
C'est déjà énorme, c'est insane, c'est pas que tu vois.
Trop fort, trop trop fort.
J'adore ce scénario.
Ouais, j'aime trop.
Je l'adore.
Allez, on fait un film.
C'était, c'est parti.
Sur VLC.
C'était la crypto. Petite histoire sur ces événements qui étaient honnêtement qui ressemble honnêtement à une histoire de d'Hollywood, pas plus pas moins. J'espère que vous avez apprécié.
J'ai apprécié.
Pas sûr que vous avez appris beaucoup de choses.
Si t'avais plus de détails que moi.
Moi j'ai une question quand même.
Tant mieux.
J'ai une question.
Ouais.
À ton avis, dans combien de temps il y a le film?
Aha.
Parce que tu dis c'est l'histoire d'Hollywood.
Il faut que ça. Ouais, il faut que ça. Il faut qu'il y ait un héros américain à un moment qui entre dans.
Il y a bien Adam Sandler qui traîne.
Qui regarde et qui déchiffre en regardant. Il se met à taper et ça déchiffre tout seul.
Il faut qu'il y ait un moment Clint Eastwood qui fasse une grosse arrestation. Et ça a peut-être des chances de voir le jour. Pas sûr. Écoutez, on arrive au terme de cette émission.
C'est parfait, j'ai une envie d'uriner énorme.
Je te voyais un petit peu
actif. Ah, ça, c'est côté bière que t'as bu pendant l'émission, non?
Voilà, parce que je suis constamment ivre, on rappelle.
Caché dans sa bouteille. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié ce moment. On vous annonce un petit truc, c'est que pour la prochaine émission, on va faire une section avec vos meilleurs projets. J'avais déjà fait ça sur ma chaîne. On a décidé de tenter le coup en live. Ça peut être méga cool. Donc, n'hésitez pas. Vous allez sur le Twitter d'Underscore. Bon, d'abord, vous mettez un petit follow. Et ensuite, vous répondez au tweet avec peut-être un projet étudiant que vous avez fait. Ou c'est pas forcément... Vous mettez pas une pression de ouf. Enfin, c'est pas obligé d'être un truc
hyper stylé.
Mais ça peut être soit un truc troll ou un truc sur un lien GitHub. Voilà. N'hésitez pas à nous mettre vos meilleurs projets. On sélectionnera les meilleurs et on fera une petite review en live devant tout le monde. Vous inquiétez pas, on sera gentil.
Non,
c'est clair.
L'ambiance.
Roast me par Underscore.
Non, cherchez un nom à ce format.
Roast me.
Parfait. Voilà. Okay. Donc voilà. Et si vous êtes en manque d'Underscore, on a une nouvelle VOD qui est publiée là maintenant à la fin de l'émission sur la chaîne YouTube d'Underscore, donc vous pouvez aller voir ça. On en a publié un maximum là depuis, genre il y en a 6 qui sont sortis en une semaine, donc n'hésitez pas à aller rattraper ça si vous avez pas vu les émissions précédentes. Et puis voilà, vous pouvez follow cette chaîne Twitch et nous retrouver mercredi prochain à 20h. Et où est-ce qu'on peut vous voir, vous?
Écoute-moi, twitch.tv/harddisklive, revue de presse tech tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h. Ah, tu le connais mon call to action maintenant. Ouais.
Est-ce qu'on peut suivre tes aventures, Jimmy?
Dans la vraie vie.
Ok.
Bon, non, mais... dans la rue. Ouais, c'est excellent.
Voilà, dans la rue.
Parfait. Mesdames et messieurs, je vous dis à une très prochaine fois. C'était pas français. Je recommence. Mesdames et messieurs.
Pas chevalier de l'ordre du mérite.
Non, je suis pas encore au niveau. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission Underscore. C'était Micode. Salut.
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 Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.